je commence la session de l'après-midi. Je suis de l'Université de Toronto. Je suis co-présidente de cette conférence. Nous sommes très heureuses de pouvoir étendre cette session à cause de la qualité des extraits que nous avons reçus cette année. Nous avons un véritable marathon, le docteur d'Argentine, qui est mon co-président pour la première moitié de cette session. En total, nous allons avoir 18 présentations. Chaque présentation va faire durer 7 minutes et 3 minutes pour les questions. Je n'ai pas de marge, donc si vous avez des questions, elles doivent être courtes et de façon similaire, les réponses vont être courtes et hautes. Et nous allons très impatients d'entendre ces présentations. Les abstracts sont un supplément spécial que vous pourrez trouver dans votre sac. Sans plus attendre, je vais ouvrir la session. Notre premier parler, le docteur Bill Cameron de l'Université d'Ottawa. Un essai de 2 mois sur les sujets naïfs en utilisant le monotableau pour le navire après induction initiale comparé d'un traitement à 3 médicaments. Étude M03-613. Alors, bonjour, je suis très heureux de vous faire cette présentation. Les résultats d'une étude randomisée et contrôlée de 2 ans, et chez les premiers, en utilisant les pinovés et une monothérapie par rapport à un traitement Evavirenz en 3 médicaments. Alors, la conception de l'étude, ces patients n'étaient pas été traités auparavant. On était dépisté l'admissibilité en 2001. Un traitement de 96 semaines. Et il y avait 2 fois plus de patients randomisés à un groupe traité, oui, lopinavir, ritonavir et zidovudine pendant 3 mois. Et ensuite, après 3 mois, s'il y a une suppression virologique en dessous de 50 compi, il continue pour 3 mois lopinavir, ritonavir, monothérapie. Ensuite, donc. Le résultat principal était la charge virale en dessous de 50 copies par millilitre à la 80e semaine ou 2 ans après. Et l'analyse primaire, nous voulons l'intention de traiter. Échec antécédent, moins de 50 copies considérées comme échec de la première charge virale. Alors. Les patients il y avait 100 de lopinavir et ritonavir, 50 pour le fevirenz. Les patients étaient principalement des hommes d'environ de 40 ans. La charge virale était, il y en a, les CD4, 225 à 250, et mostly, et principalement caucasiens. Alors, pour vers la fin de l'essai, environ 70% des groupes ont fini l'étude sur la stratégie d'intention de traiter. Les interruptions au total d'environ 25% dans chaque groupe sans différence significative et pas de prédominance pour quitter l'étude. L'analyse primaire était l'intention de traiter pour une proportion de en dessous 50 copies à l'entrée de l'étude. Et vous pouvez voir là qu'il n'y avait pas de différence significative après tout de ce résultat, en reconnaissant le fait que les patients qui étaient en dessus de 50 copies étaient considérés comme un échec. Donc, ça a dû commencer 6 mois dans l'essai. Si nous regardons différentes type d'analyse, d'intervention de traité, dans lequel les patients étaient classifiés en fonction de la charge virale. Au moment du suivi, vous pouvez voir qu'il n'y avait pas de différence discernable entre les deux groupes de traitement. Une autre façon de regarder cela pour classifier un petit peu le niveau de rebond virologique, on peut comparer les deux groupes, environ 500 copies par millilitre, et il n'y a pas de différence discernable, sans différence significative statistiquement entre les deux groupes. On peut aussi analyser le résultat en examinant les patients à partir du moment le traitement, le lopinavir et ritonavir en monotraitement, donc dès 6 mois après l'entrée dans l'étude, et comparer ça à la population des patients qui sont les FAVSN, qui ont atteint le même critère, qui aurait permis une désintoxication ou un traitement unique. Et vous pouvez voir qu'il y a une courbe régulière jusqu'à 50 copies par millilitre, et le calitre ou le lopinavir ou tranipra, comparé aux patients comparables de l'autre groupe. Et c'était statistiquement différent. Si nous classifions l'échec à 500 copies, nous ne voyons pas de différence significative entre les deux groupes. Ça illustre que la partie des et que l'analyse précoce était transitoire. Le type d'analyse de ces dispositions et de statut virologique autour de cette unique est illustré ici, où en haut, en bleu ciel, ça représente les patients qui ont quitté l'essai. Et vous pouvez voir que dans ce cas, il y en a plus que dans l'autre. Vous pouvez voir qu'une autre différence apparaissant entre les deux groupes de l'étude, c'est qu'après 6 mois, il y a des groupes de patients avec une charge virale entre 50 et 500 copies par millilitre, mais pas de différence, pas de vraie différence de patients qui vont au-dessus de 500 copies. Et de la même chose, la majorité, dans les deux groupes, la majorité des patients sont immunosupprimés à moins de 50 copies. Sinon, examinons les résultats de la charge virale pour le traitement unique. La majorité des patients au-dessus de 500 copies par millilitre pour le groupe monotraitement était supprimé jusqu'à l'introduction de traitement, et la majorité des patients avec des faibles niveaux étaient immunosupprimés jusqu'à les mêmes. Donc pas de différence de la réponse des CD4, et nous voyons examiner les mutations de résistance, et les résultats, nous avons découvert les mêmes à peu près, une proportion infréquente de patients qui ont des mutations génotypiques détectées dans chaque groupe en résumé, avec des traitements qui réussissent. Le traitement LPVR continue à maintenir la suppression virale dans une grande proportion de patients. Les patients recevant ont plus de découvertes, jusqu'à 500 copies. C'était généralement dans cet intervalle entre 50 et 500 copies inéternellement resupprimées en dessous de 50 copies, et la détection de mutations de résistance n'y avait pas de grande proportion de patients. Enfin, le monotraitement peut devenir un traitement alternatif pour certains patients sélectionnés. Merci. Est-ce qu'il y a des questions pour le Dr Cameron? Micro numéro 2, John Miller de l'Université de Pittsburgh. Bill, est-ce que tu as examiné la charge virale dans le sperme, le C CSR. C'est la réponse la plus succincte que j'ai entendue. CSF. Est-ce que nous pouvons avoir le micro? Est-ce que nous pouvons... Quelles est-elle les mutations pays? Est-ce que vous pouvez vous en parler? Non, j'ai pas de réponse là-dessus. Non, combien? Micro numéro 2, de juin de Bombay. Oh. Quel était le niveau de, j'ai pas compris, après 96 semaines? Les niveaux de triglycérides, nous avons cette information, je pense, que je connais pas les chiffres, mais ça serait, c'est à peu près ce qui a été observé dans les études passées, sur les essais collés 3, et on peut s'attendre à ce que ça soit un peu élevé par rapport au groupe de traitement comparable. Deuxième extrait de Audan, c'est l'essai Monarch. Une CVT et chez les patients naïfs, c'était docteur Dalfrazy, de la part de ses expérimentateurs. Merci, je suis très content de présenter les résultats de l'essai Monarch. C'est un pilote pour comparer la sécurité, l'innocuité et l'efficacité de ces deux traitements-là chez des patients qui n'ont jamais été traités, les patients n'avaient pas eu de traitement, la charge virale était moins de 100 000 copies. En fonction de la charge virale le quantité d'écart était à peu près comparable et le point d'étude était la proportion où la charge virale était moins de 50 copies après 24 semaines et une charge virale en dessous de 50 copies à la 48e semaine. Dans la disposition des sujets pendant... nous avons 83 sujets randomisés dans le groupe de traitement unique et l'autre dans le groupe à triple combinaison. Voilà une étude. On avait un taux d'interruption qui a été observé dans les deux groupes. Quels sont les résultats pour les points d'efficacité? Alors, et nous observons que dans le groupe de traitement unique, 71% des patients avaient une charge virale inférieure à 50 copies à la 48e semaine et 65% des patients ont atteint le point de résultat final, les points finaux 1 et 2. Donc c'est comparable au groupe de trithérapie. Lorsque nous regardons les patients en traitement, avec la charge virale était différente. Clairement, nous avons dans le groupe de monitraitement 80 et quelques pourcents avec une charge virale en dessous de 50 à la fin de l'essai et 80% des patients avaient atteint les points 1 et 2 et ces résultats sont différents du groupe triple combinaison. Il y avait donc une différence statistiquement significative. On regarde maintenant la courbe de la réduction de la réponse virologique et l'analyse d'intention est similaire dans les deux groupes et c'est également similaire pour les patients en traitement. La courbe de réduction de la charge virale en dessous de 50 copies est légèrement inférieur dans le groupe de traitement unique pour l'analyse d'intention de traiter et clairement inférieur dans le groupe en monothérapie pour les patients en traitement. Donc, on voit ici toutes les mesures de charge virale pour chaque patient pendant l'essai. comme défini dans le, dans le protocole, et on peut voir clairement la même chose que pour le traitement d'entretien. Il y a une proportion de patients dans le groupe de monotraitement, de monothérapie, où, pour laquelle la charge virale est entre 50 et 400, et la différence avec la triple combinaison est clairement, sont clairement significatives. Il y a des différences claires. Nous observons pas de différence claire pour le compte de CD4, et l'augmentation des CD4, c'est environ 159 et 151. Nous avons fait des tests de résistance pour l'analyse génotypique et phénotypique pour les patients ayant une charge virale supérieure à 500 copies pendant l'essai. Dans le groupe de monothérapie, on a eu deux patients qui avaient des mutations génotypiques associées à une résistance au PI, aux inhibiteurs de la prohibitase, de la protéase, alors que dans le groupe à triple combinaison, et une mutation associée à une autre résistance. Chez les deux patients ayant des mutations phénotypiques au PI, on n'interpère pas de changement phénotypique. Les mutations génotypiques étaient associées une autre mutation chez 82 patients et associées avec une mutation 46 chez le deuxième patient. Les deux patients avec une notification de l'AZT, l'opinavir est un navire, et les deux patients avaient des charges virales en dessous des 50 copies après 4 semaines de traitement. En conclusion, le début d'un traitement antiviral avec l'épaulavir est un navire en monotraitement démontre une efficacité virologique durable. Le traitement lopinavir a été associé avec plus d'épisodes de virémie, entre 50 et 400 copies en comparaison avec la trithérapie. Ces résultats sont consistants avec les autres résultats des autres essais sur la première génération sans NRTI, par exemple hippocampe. Et clairement, à l'époque, ma position est que la monothérapie avec l'éponavir et tronavir ne devrait pas être recommandée pour tous les patients naïfs. Cependant, des analyses continues et probablement l'ADN viral, les études pharmacocinétiques et d'observation du traitement peuvent identifier des facteurs prédictifs définitifs qui identifient les patients naïfs pour lesquels une stratégie peut être proposée. De plus, ces résultats chez des patients naïfs suggèrent que la monothérapie et le lopinavir et tenavir, il faut faire d'autres évaluations, simplement. Merci pour votre attention. L'auditoire est ouvert pour les questions. Micro 3, je viens du Royaume-Uni. Ma question, quel est le temps moyen dans lequel les tests de résistance ont été effectués? Je ne sais pas. Probablement après 28 semaines. Est-ce que vous avez des données de résistance après 48 semaines? Non. Charles, micro 3, de Hollande. Je me demande dans le monotraitement thérapie la relation entre la charge virale initiale et le risque d'échec. Comme vous avez observé, je n'ai pas donné les résultats de l'analyse multivariable parce que nous travaillons là-dessus en ce moment. Je peux simplement dire que tous les patients ayant une charge virale inférieure à 30 000 copies ont une charge virale à la fin de l'essai inférieure à 50 copies. Micro 4. En plus, nous avons des résultats pour l'autre question. Pour le premier, nous avons les résultats. Nous avons des résultats pour le sperme et nous avons les mêmes résultats que pour la triple thérapie. que pour le groupe en monothérapie. Micro 2. Est-ce que vous avez des résultats plasmatiques, est-ce que vous avez des niveaux plasmatiques pour l'échec? Oui, nous avons une analyse PK et nous n'avons pas encore les résultats. Nous ne les présenterons pas aujourd'hui. Mais clairement, nous devons faire une relation entre PK et l'efficacité virologique. Micro 1. Est-ce que vous avez mesuré d'autres résultats et comment vous avez mesuré? J'ai peut-être malentendant. L'observance était bonne dans les deux groupes, il n'y en a pas de différence dans les effets secondaires. Aussi, comme vous avez observé, l'essai a été exécuté avec des capsules, des gels, les capsules de gel. Dernière question, est-ce que vous pouvez faire des commentaires sur CSF? C'est une bonne question, comme vous le savez. Je n'ai pas de résultat pour l'instant, vous savez. Nous anticipons un tel problème avec la pénétration de Kelletra dans le liquide séminal et dans le réservoir. Et nous avons de bonnes idées pour le liquide séminal. Le troisième présentation, c'est 2-203, l'éthanopir comme en groupe chez les patients qui ont une suppression de VIH1, étude de 48 semaines, et c'est randomisé au cas au fort présenté par le docteur Robertson. Bon après-midi, cette étude qui tombe. Et ça inclut un petit peu des niveaux qui n'ont pas d'antécédents d'échec virologique et qui reçoit c'est le médicament pendant au moins un mois avant la randomisation. Ce type de patient a été randomisé pour commencer le nucléoside, c'est le TIL, le bras colitra, et continuer à utiliser les capsules trithérapie n'était pas où les patients étaient randomisés pour continuer les deux nucléosides. Donc c'est le grand trithérapie. Cette étude a été, il y a eu du suivi pour la plupart de l'étude. Les patients étaient suivis et étaient tous les 6 mois. Le point final est la proportion de patients qui avaient un échec après 48 semaines. Mais il y a une exception, les patients qui étaient en monothérapie ou qui étaient un rebond virologique et qui n'avaient pas de mutation ne sont pas considérés comme des échecs thérapeutiques. Les changements de traitement et ainsi de suite. Nous n'avons 100 patients par groupe et l'étude a duré 48 semaines avec vous pouvez voir ici dans cette diapositive les deux groupes étaient bien équilibrés au début du traitement. La moitié des patients étaient infectés par l'hépatite C. C'est important de savoir que ces patients ont été indétectables pendant un certain nombre 29 mois, 17 mois dans le groupe de trithérapie. Le CD4 de base était relativement haut, près de 500. C'est pour ça qu'ils n'ont pas été détectés. Tous les patients qui sont entrés dans l'essai, alors 198 essais ont été randomisés et ont reçu une posologie. Vous pouvez regarder 100 patients qui avaient le premier VIH seul après une année en 98 prennent seulement Kelitra. 11 patients, 6 patients qui avaient une perte du contrôle virologique, 5, on leur a donné des nucléosides. Il y a 3 qui ont été perdus dans le suivi et un changement dans leur traitement randomisé. On a 88 prennent toujours cette combinaison. Les autres 10% ont eu une perte de contrôle virologique. 3 patients ont arrêté à cause d'effets secondaires et 4 patients perdus dans le suivi. Vous pouvez voir le point final primaire à la 48e semaine. Ces points finaux incluent seulement 4 patients qui étaient dans le groupe de monothérapie pour lesquels on a réussi. Et il y avait une suppression virale. Donc nous avons un échec filial alors que 3,4 par rapport à 11,8 d'échecs de traitement. Un petit peu l'intervalle de confiance à 95%. Dans cette, vous voyez ici le moment de l'échec thérapeutique. Il n'y a pas vraiment de différence statistique. Alors l'analyse sensitivité, incluant la proportion de patients qui ont moins de 50% avec intention de traiter, dans cette analyse, l'induction est égale à l'échec. Donc c'est les 4 patients qui ont pu être induits, considérés comme des échecs, même s'ils restent indétectables après 48 semaines. Nous avons maintenant il n'y a pas de différence significative ici. Ensuite, dans ces diapositives, vous pouvez voir la prévalence des interruptions et de la réponse virologique en vert. Dans l'étude avec une charge en dessous de 50 copies, en bleu foncé, on a entre 50 et 500 copies. La majorité des patients sont dans la majorité dans la zone orange pendant l'étude avec une charge virale de plus de 500. Il y a peu de changements dans les comptes de CD4. C'est homogène avec les comptes de CD4 au moment initial. C'est passant. Il tolérait Calitra, il y avait très peu d'interruption de traitement. On répond des effets secondaires tels que diarrhée, autres. Alors, pour les anomalies de laboratoire, il y avait 3% de patients dans chaque groupe qui ont eu des triglycérides de niveau 3 ou 4 et des problèmes et niveau 3 ou 4 de cholestérol. 4% pour le groupe de thérothérapie. Alors, les tests génotypiques, indépendamment des échantillons, parmi 11% de patients avec des mutations primaires PI, avec une prévalence de résistance de 2% dans le groupe trithérapie, un patient avec une prévalence de 1%. La conclusion principale de l'essai, c'est qu'après 48 semaines, le monotraitement n'était pas inférieur à la combinaison de la proportion de patients sans échec thérapeutique. La majorité des patients, 85%, en monotraitement, lipuravir et nutravir, ont maintenu une suppression virale sans nucléoside. Après l'essai pilote, j'aimerais partager avec vous. Bon, quelles sont les implications thérapeutiques? La question est combien de patients traités avec lipolavir et tonavir n'ont pas besoin de nucléosides pour maintenir une charge virale en dessous de 50 copies? Nous pensons que notre estimé, c'est environ 85% des patients qui semblent maintenir, qui n'ont pas besoin de nucléosides pour maintenir la suppression virologique. 10% des patients ont des épisodes de non-observance du traitement. Il y a une suppression virologique et le risque de développer des mutations est faible par rapport aux simplifications des stratégies. Nous avons environ 5% qui ont des rebonds persistants et stables sans problème de non-observance. La cause et la solution de Jérémie est actuellement inconnue. En l'absence de résistance pays, ces patients peuvent être contrôlés en reprenant les nucléocides, mais si ces patients, s'ils continuent à répliquer, bon, bien sûr, il y a des risques de développement de résistance pays. Nous pensons qu'il y a afin de déterminer si la trithérapie est nécessaire, pas pour un patient spécifique, pour conserver la suppression virologique, est une stratégie faisable. Voici mes collègues et les investigateurs. Tous les noms des expérimentateurs. Merci.
There is time for one question.
On a le temps pour une question seulement. Micro numéro 3. Avez-vous vérifié pour voir s'il y avait des niveaux de triglycérides différents avec les patients FCM? Non, du tout. Ce n'est pas un facteur que nous avons étudié. Bon, merci José. La prochaine communication, c'est le 204. Une étude en phase 3 de NRTI IP, NNRTI, pour diminuer NNRTI pour le traitement initial d'un VIH1. C'est l'étude ACTG 542, présentée par Sharon Riddler. Merci. Alors, au nom du ACTG, l'équipe d'études du protocole, ça me fait plaisir de vous présenter les premières analyses d'une étude randomisée en phase 3 pour un traitement initial de VIH. Ces régimes ont été recommandés et ils nomment le fipronil avec deux nucléosides qui n'ont pas été comparés adéquatement animés dans des études cliniques randomisées. Ces régimes qui diminuent la prise de NRTI n'ont pas été évalués dans de grandes études randomisées. A542 est une étude clinique ouverte, randomisée, avec des patients naïfs, avec plus de 2000 coupés, et tout compte c'était randomisé également dans trois branches. Lopinavir soft gel capsules, plus efavirenz, lopinavir en capsule et deux nucléosides, et efavirenz plus deux nucléosides. Les nucléosides utilisés dans l'étude étaient 3 TC plus le choix de zidovudine, D14SR ou tenofovir, avec une sélection qui était faite avant la randomisation. La randomisation a été stratifiée par le RNVH, une co-infection hépatite, une sélection d'NRTI. Les objectifs primaires, c'était premièrement de comparer entre branches, le temps jusqu'à l'échec virologique, où l'échec virologique était défini très tôt en manque de suppression par un lung ou une rechute avant la semaine 32, ou en retard, échec de supprimer à moins de 200 copies ou reprise après semaine 32. Deuxièmement, de comparer entre les groupes pour compléter le régime. On complète le régime, c'est un échec virologique ou une interruption liée à la toxicité à toute composante du régime. Les données présentées aujourd'hui ont été mises à jour d'un document déjà publié. Toutes les analyses sont avec l'intention de traiter la signification, c'est-à-dire le seuil pour les deux points finaux, 0,016, après ajustement pour les deux points finaux coprimaires, les trois comparaisons et les analyses intérimaires qui ont été effectuées pour le DSMB. Les sujets qui ont complété le régime dû à la toxicité ont été suivis pour un échec virologique pour ce qui restait de l'étude. Les sujets qui ont interrompu sans avoir un point final ont été éliminés. 753 sujets ont été recrutés avec 20% de femmes, 64% n'étaient pas de race blanche. Le CD4 moyen était de 182. L'ARN-VIH au point de départ, 51 000 copies. Les NRTI choisis étaient 42 zidovudine, 24% D410XR et 34% tenofovir. Aucune différence significative dans les niveaux de référence entre les trois groupes. Le suivi moyen était de 112 semaines. Le temps écoulé pour les chèques virologiques était moins dans l'hyponavir nucléocine en rouge comparé sur Favarens plus de nucléocine ici en jaune avec un rang log stratifié de 0,006. La proportion des sujets qui n'avaient pas d'échec virologique à la semaine 96 était de 76% pour Efavirenz, 63% pour l'Indifir et 67% pour l'Opidavir plus de nucléocine. Et il y avait une tendance avec un temps moins long pour la compléter, Ripanavir plus 2, comparé au Efavirenz plus de nucléocine, avec une valeur P de 0,02 qui n'atteint pas le seuil de significatif. Il n'y a aucune différence. Le temps écoulé au premier traitement dû à toxicité dans les trois groupes. 19% des sujets en tout avaient un nouveau symptôme grade 3 ou 4 durant le suivi de l'étude et 37% avaient un ou plus nouveaux événements laboratoires 3 ou 4. Cette proportion plus élevée de l'événement dans l'éponuire Favarens est alimentée, semble-t-il, par des augmentations dans les lipides de sérum, mais les analyses précises pour les toxicités n'ont pas été complétées encore. Cette diapo démontre la proportion des vivants avec un ARN VIH inférieur à 200, alors avec intention d'être traité, et les valeurs qui manquent sont écartées. À la semaine 96, la proportion avec moins de 200 copies est 93% dans le groupe Efavirenz, 92% dans l'Opinavir plus Efavirenz et 86% dans le groupe Lipanavir. La différence entre l'Opinavir et le groupe Efavirenz avec une valeur de 0,041. À 196, la proportion était inférieure à 50 copies, 89% dans le groupe Efavirenz, 83% dans l'Opinavir plus Efavirenz et 17% dans le groupe l'Opinavir. Encore une fois, il y a une différence significative entre l'Opinavir et Efavirenz avec une valeur P de 0,003. Des changements du CD4, il y a une augmentation dans les trois. À la semaine 96, il y a une augmentation de la moyenne significative pour les deux régimes contenant du lopinavir et qui se compare au régime Efavirenz avec des valeurs peu de 0,01 pour chaque comparaison. À l'heure actuelle, la résistance génotypique est disponible pour 124 des 227 sujets au moment de l'échec virologique. La résistance, la mutation en RAT est observée dans 10%, 15% et 33% des génotypes disponibles. Avec la mutation la plus commune, M1-84-1V, NRRT, la résistance était mesurée dans 69, 4 et 48% avec la mutation la plus fréquente étant le cas 10-3N. Les mutations IP majeures étaient rares dans seulement 2 des sujets. Mutations dans 2 des classes étaient plus fréquentes dans les Efavirenz plus de nucléocine. En conclusion, comparé à un régime de Efavirenz plus 2 NRTI, l'Opinavir plus 2 NRTI avait un temps plus court avant l'échec virologique, il y avait un temps plus court pour compléter le régime. Les régimes qui diminuent les RTP de LPV plus FEV avaient une efficacité virologique semblable et un temps semblable pour limiter la toxicité autant que FV plus 2 NRTI. Les analyses de résistance préliminaires ont montré une tendance à plus de résistance NRTI dans le LPV-EFEV comparé au FEV plus les deux nucléocides. Une mutation de résistance dans deux classes était plus fréquente dans le EFV plus 2 et des mutations IP majeures étaient rares. Et merci aux bénévoles, aux chercheurs, aux employés des 55 centres qui ont participé et aussi l'appui de nos gens chez Abbott, Gilead et aussi les membres des autres équipes. Merci.
This paper is open for questions.
Questions? Pierre Scali, pour ceux qui étaient supérieurs à 100 000, les différences entre l'efficacité, la résistance, les mutations basées sur le niveau de référence de la charge virale. On n'a pas étudié la résistance sur ce point-là. C'était seulement préliminaire, la proportion avec une charge virale moins de 250. Et il n'y avait pas de différence moins de 100 000. On n'a pas regardé le temps écoulé avant l'échec virologique et ou la sur la charge virale ou la charge virale. Carl Cohen, Boston, pouvez-vous expliquer le fait que vous avez plus de NNRI de mutations
than the companion drugs, not more?
Well, we don't see PI mutations.
On voit pas de mutations IP. Un taux qui semble être excessivement élevé. Il faut tenir compte du fait qu'il y avait assez peu d'échecs. Alors, c'est la proportion des échantillons d'échecs que nous avons. Nous croyons que peut-être la dose de fois par jour de la lopamivir offre moins de protection pour les favarens, comparé possiblement à une dose une fois par jour de niclosine dans l'autre groupe. Dernière question, micro numéro 4. En ce qui concerne quand on termine le régime, quand vous passez de AZT à D4T pour l'anémie, est-ce que c'est un échec de régime? Oui. Tout changement dans le régime randomisé. Merci. Et on poursuit 205, Clean Study. Alors, quel est BID versus BID Lexiva, présenté par Dr. Aaron. J'aimerais remercier les organisateurs. Très heureux de vous présenter ces résultats. J'allais me raser au début et porter une boucle d'oreille et un t-shirt blanc, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Alors, c'était une première main. N'aurait pas pu se faire sans l'aide de beaucoup de chercheurs ici au Canada, aux États-Unis et en Europe. Et surtout, les participants et les coordonnateurs de l'étude et aussi les commanditaires, surtout ceux GSK, Paul Wanamaker et Lisa Patel. Alors, voici le fond, l'historique, mais dans les directives que nous avons, lopinavir, ritonavir en combinaison avec 3TC, et ezetimibe est une recommandation de première ligne. Il y a une preuve à d'autres études que face à prenevir avec ritonavir est assez puissant et bien toléré, mais clairement, on n'avait jamais comparé directement. Et encore une fois, abacavir 3TC en dose fixe donne une dose 4 fois par jour qui aide possiblement à la conformité du traitement. Alors voici le design. Alors en phase 3, randomisé, ticket clair, 1 sur 1, 48 semaines. Alors on ne dépasse pas les 48 semaines, les sujets étaient naïfs, ARFV, n'importe quel décompte de CD4 avec un niveau d'eslam de ARN, plus de 1000 copies. Il y avait une stratification dans l'analyse. En bas, moins et au-dessus de 100 000, et avec une puissance de 90% pour déceler la non-infériorité du FPV et LPV avec une différence de 12%. Je dirais que cette étude a déjà été publiée dans le Lancet, et cette étude, évidemment, dans la publication, il y aurait des détails que j'aurais pu négliger ici dans notre présentation, faute de temps. Et aussi, il est à noter que les patients qui avaient été sensibles au abacavir, hypersensibilité, n'étaient pas des échecs de traitement. On leur a permis de substituer un autre nucléoside, zidovine, qui était donné, mais ils auraient pu choisir n'importe quel nucléoside afin de continuer l'étude. Alors, on a l'algorithme Tealover. Alors, tous les sujets qui ont été randomisés, qui ont reçu au moins une dose, des répondants sont ceux qui ont été en bas de 400 copies et puis n'ont pas un échec de traitement confirmé. traitement échoué, c'est là où l'ARN n'est jamais en bas de 400 copies ou à une reprise confirmée qui dépasse les 400 copies. Si après 48 semaines, la charge virale était de 400 copies et il n'y avait pas d'occasion pour cette personne de se le faire confirmer, cette personne était jugée comme ayant perdu une réponse virologique. Il est important aussi, on a un échec virologique défini par le protocole. Ce sont les patients dont les virus devenaient passaient à des tests de résistance. Et dans ce cas-là, si quelqu'un avait un ARN unique moins de 400 et après une reprise au-dessus de 400, c'était un échec virologique. Ou s'il n'atteignait pas une charge virale moins de 400 à la 24e semaine, c'était un échec virologique. Alors voici la distribution géographique. Vous allez noter qu'il y a presque 900 patients randomisés. 6% venaient du Canada. Alors voici la dégramaphique. Les femmes, 22%. 42% de la population était pas de race blanche. 11% avait déjà été diagnostiqué avec quelque chose relié à SIDA. Et 15% était une hépatite B, C active, soit l'un, soit l'autre, ou les deux. Et les caractéristiques de niveau de référence avec une charge virale au-delà de 100 000. Pour CD4, 192. Et vous voyez qu'il y avait une grande proportion de patients qui avaient des CD4 en bas de 150. Alors voici l'analyse Tallover. 71% des patients pour FPVR et l'autre à l'opinivir et ont été répondus pendant 48 semaines. 6% et 7% ont rencontré la définition de non-réponse virologique. Et là, il y avait une série d'interruptions qui sont assez équilibrées entre les deux groupes étudiés et surtout dictées parce qu'il n'y avait pas de suivi ou des effets indésirables. La non-conformité, c'est le chercheur qui a établi ça avec le protocole. Ça ne veut pas dire forcément que le patient ne se conformait pas à une thérapie ou à une autre. Il y a eu 4 décès lors du protocole. Avant les résultats de Tallover, il y avait un décès additionnel chez un patient qui a échoué les critères de virologique, d'échec virologique. Il y a eu des complications, il est mort. Les chercheurs n'ont pas cru que c'était vraiment relié à l'étude. Alors, voici les premières réponses, moins de 400 copies. Encore, c'est l'analyse Tallover. 73% et 71%. Évidemment, ce qui rencontrait la définition de non-infériorité, je peux vous dire également que si vous étudiez toute autre analyse, raté, c'est un échec. D'années observées en haut, les résultats sont tout à fait conséquents. Les deux prochaines diapos, c'est les histogrammes pour qu'on peut voir les strates différents. Alors à gauche, le résultat global et les autres, moins de 400 dépendant de la strate, plus ou moins de 100 000 copies, littéralement des résultats très semblables. Et pour le décompte de CD4 dans ces sujets, même avec des décomptes CD4 très faibles, on répondit aussi bien que ceux qui avaient un dénombrement supérieur. Entre les groupes, les comparaisons sont semblables et à travers les strates, les comparaisons sont semblables aussi. Alors encore un autre point de vue, moins de 50 copies. Alors moins de 50 copies, l'analyse Tallover 67% et 65% étaient moins de 50 copies à 48 semaines. Si vous dites qu'un raté c'est un échec ou les sujets peuvent redescendre en bas de 50, ces chiffres sont un peu plus supérieurs et les résultats sont dans l'article. Et là, la stratification par ARN et CD4 n'est pas grand changement ni de différence dans les comparaisons. Un changement dans le cours de CD4, 176 et 191, était le changement médian entre les deux groupes. Alors, voici l'analyse de résistance. Rappelez-vous que le protocole définissait l'échec virologique. Ça prenait une confirmation. Il y en a eu 16 dans le FPVR et LPV. Dans l'autre groupe, dans le groupe LPVR, 23 n'ont pas pu séquencer. Et dans chaque groupe, la majorité n'avait pas des mutations dues au traitement. Mais les patients qui ont eu des mutations dues au traitement, il y en a eu un qui était dû au thianamine, E84V était assez... pas commun. Et les mutations du OIP sont apparues. Il y en avait 3 pour le FPVR et 2 pour le LPVR. Et aucun satisfaisait aux critères pour les mutations majeures. La mutation 54 reliée à Imprenavir était présente dans un sujet parmi 440. Alors voici les effets indésirables, événements non désirés. Alors ça se compare assez bien dans toutes les catégories. Les parenthèses, les pourcentages des parenthèses, c'est les grades 3 et 4. Alors grade 3, 4, événements indésirables cliniques qui étaient assez fréquents. Et ici, tout tabacovir HSR était un événement indésirable significatif et 6% pour abacavir HSR en tout. Alors, voici les EA qui ont mené à l'interruption. Alors, interruption de toute drogue dominée par HSR ou abacavir qui était de 6%. Et encore une fois, la grande majorité de ces patients ont changé de nucléoside et demeurait, faisait partie quand même du protocole dans l'analyse primaire. Et là, vous voyez les autres effets indésirables et qui étaient semblables entre les deux groupes. Alors, les changements triglycérides et autres, alors un parallèle entre les deux groupes. Voici les changements LDL-HDL, alors médiane de la population. Vous voyez des parallèles entre les groupes, 11% des patients avaient des agents pour réduire les lipides. Et les conclusions, finalement, FPV avait une efficacité comparable à LPV-BID avec une dose fixe, avec un abacavir 3 TTC une fois par jour. Très peu de patients avaient des échecs tels que définis par le protocole. Pas de mutation majeure IP, réduction phénotypique ou susceptibilité, les régimes étaient bien tolérés. Et tout dernièrement, les deux et les doses en combinaison avec PVR3CTC ont été ajoutées aux composantes recommandées par le ISUSA Guidelines qui ont été publiées cette semaine. Merci. Vous avez pris trop de temps, alors on n'a pas de questions. Alors on continue et hop. Et là, on passe à Pedro Kahn pour la prochaine communication. Et on change de chemise aussi. Alors, améliorer le dépistage. C'est pas le bon écran. Alors, c'est pas le bon. C'est à moi, mais c'est pas le bon. Alors, si on avait le numéro, ça irait mieux.
0206 is the slide set that you should show.
There we go.
Okay. So improving HIV screening with rapid testing and streaming.
Bon, nous y sommes. Améliorer le dépistage VIH avec un test rapide et du counseling rapide. J'aimerais remercier le comité organisateur pour m'avoir permis de présenter les résultats de ce qui est pour moi est un projet de mise en œuvre très intéressant et ça se fait chez les anciens combattants aux États-Unis. Je dois vous dire que je me sens un peu bizarre ici parce que c'est un projet non clinique que je vous présente, mais si vous me suivez pendant au moins 10 minutes, j'espère vous convaincre et vous montrer comment c'est pertinent. J'aimerais remercier les co-auteurs de cette étude. Il y en a qui sont parmi nous et désolé d'avoir raté le souper hier soir. J'aimerais débuter ma présentation en faisant remarquer deux statistiques. Une que vous connaissez sans doute et une autre que je ne connaissais pas vraiment. La première, c'est que 45 millions dans le monde sont affectés. La statistique que vous ne connaissez peut-être pas, et c'est une réalité quand même assez triste, c'est que plus de 95% de ces gens-là ne savent pas qu'ils sont séropositifs. Alors, il est tout à fait impératif, si on veut mitiger l'épidémie, que les gens connaissent leur bilan de santé, parce que la recherche démontre, quand les gens connaissent leur état VIH, ils ont un comportement moins risqué, alors ce qui diminue la propagation de la pandémie. Alors, on voulait le système de santé pour les anciens combattants pour faire ce projet pour le dépistage. Un dépistage qui aimerait faire deux choses. Non seulement accroître le dépistage, mais augmenter le taux à lequel les gens reçoivent leurs résultats. Nous croyons que les anciens combattants, c'est un système idéal parce qu'il y a un projet qui est lié à celui-ci. Même les patients qui sont traités et qui voient leur médecin de façon routinière ont été ciblés. Même ceux qui sont à risque de se faire infecter ne se font pas tester comme ils le devraient. Alors comment se fait-il qu'on n'a pas les chiffres qui se font dépister? Ben, premièrement, parce que le counseling pré et post prend beaucoup de temps. Alors ce qu'on a tenté de faire pour surmonter cet obstacle, on veut avoir une procédure qui soit plus rapide. La deuxième, c'est que très souvent, les médecins ne trouvent pas que le dépistage est en priorité. Alors, le dépistage ne se fait plus maintenant par les médecins. Ce sont maintenant les infirmiers et infirmières, parce qu'il y a un protocole qui est régi par les infirmières pour le dépistage. Et très souvent, les patients ne retournent pas à la clinique et à l'hôpital pour connaître les résultats. Alors, pour surmonter cet obstacle, c'est qu'on a établi un protocole pour un test rapide. Alors, le HIV rapid testing, comme vous le savez, c'est une procédure assez rapide pour le dépistage du VIH. Les méthodes actuelles, c'est soit se piquer le bout du doigt ou bien un écouvillon oral. Le test rapide est très efficace pour accroître le nombre de personnes qui reçoivent le résultat parce que, contrairement aux méthodes traditionnelles, c'est un processus de visite, premièrement pour le test sanguin, après ça, amener au laboratoire et attendre les résultats de laboratoire une ou deux semaines après. Un dépistage rapide vous donne ça dans 20 minutes. Et j'ai lu dans un journal il y a quelques jours qu'il y a une compagnie ici au Congrès, qui veut intégrer un test de dépistage où on peut avoir un résultat en dedans de 3 minutes. Alors cette technologie est très bonne et fait d'énormes progrès. Les dépistages rapides sont efficaces dans beaucoup de milieux de soins, dans les cliniques de soins et de soins urgents, et aussi efficaces dans certains milieux de santé publique comme des cliniques d'MTS. Mais très peu de recherches ont été faites dans les soins primaires ou dans le système des anciens combattants.
Donc, notre étude a été conçue comme étant une intervention avec randomisée qui s'est produite dans une clinique du centre de Los Angeles. Les patients qui attendaient de voir leur médecin pour le rendez-vous ce matin-là sont fait demander s'ils voulaient participer au projet. Et ceux qui ont répondu oui ont été randomisés dans trois modèles de dépistage. Le premier, c'est ce qu'on appelle notre modèle habituel. Les patients dans ce modèle ont été invité par notre recruteur de demander à leur médecin pour un test du VIH lorsqu'ils ont vu leur médecin ce matin-là. Le deuxième bras de l'étude, c'est ce qu'on appelle notre traitement par infirmière. Dans cette version, une référence a été entrée dans le système informatique par une infirmière qui ensuite envoyait le patient pour un test traditionnel. Dans le troisième traitement, la différence entre les deux premiers, c'est qu'il y avait une référence dans le système informatique, la différence étant que l'infirmière administrait également le counseling et le test rapide. Nous avons quatre points. Le premier, c'est si le patient avait un résultat. Le troisième, c'est la connaissance des patients que nous mesurons par des sondages pré- et post-intervention. Et le quatrième, c'est une analyse d'efficacité qui est encore en cours. Nous regardons aussi les covariables, la démographie des patients, les facteurs de risque et la comorbidité, c'est-à-dire la tuberculose, certaines MTS et les hépatites B et C, dépistage pour ces hépatites. Voici une représentation graphique de notre protocole. Nous avions 283 personnes qui ont accepté de participer à notre projet après avoir exclu 94 pour non-admissibilité. En bout de ligne, on a enrôlé 189 patients dans le projet qui ont été randomisés, comme vous le voyez ci-bas. 62 dans notre situation habituelle, 64 dépistage par les infirmières et 63 dans le traitement combiné. Ce tableau montre les caractéristiques démographiques de notre population de patients. Comme vous pouvez voir de ces résultats, nos patients aux anciens combattants, c'était surtout des Noirs et avaient tendance à être des gens relativement pauvres pour les États-Unis. Il n'y avait pas de différence statistiquement significative entre ces trois groupes. Maintenant, je vais vous donner les deux résultats attendus. D'abord, si un patient avait reçu une bonne commande pour un dépistage. D'abord, si le patient demandait pour un test, 40% des patients dans ce groupe ont eu un bon de commande. Dans le traitement par infirmière, 84% des patients ont obtenu un résultat et il y a eu une petite augmentation à 92% lorsqu'on regardait l'addition d'un test rapide et le counseling. Lorsqu'on regarde à savoir si un patient a reçu ses résultats ou pas, notre traitement usuel s'est mal tiré d'affaire. 16% seulement des patients ont reçu le résultat. Les résultats ont plus de doublé lorsqu'on évaluait notre traitement par infirmière et a encore une fois doublé si on regarde le groupe avec le counseling et le test rapide. Alors la direction de ces résultats et l'ordre de grandeur nous a même surpris, nous. Donc, quelles sont les conclusions? En termes de commandes de tests, l'ajout de dépistage par les infirmières a augmenté le nombre de tests comparé au traitement usuel. Il y a eu une petite différence non significative avec l'ajout du test rapide et du counseling. Mais en termes de réception des résultats, le dépistage par les infirmières a augmenté les résultats lorsqu'on le compare au traitement usuel. Il y a eu aussi une augmentation significative avec l'ajout du counseling et du test rapide. Donc, quelles conséquences peut-on ou quelles conclusions peut-on tirer de cette étude? La première chose qu'on va chercher à faire, c'est d'augmenter, d'étendre ce projet au niveau des anciens combattants à l'échelle nationale. La deuxième conséquence, c'est que nous croyons que ce projet et certains éléments de ce projet peuvent être utilisés comme point de départ pour d'autres efforts de vulgarisation. Par exemple, on utilise certains éléments de ce projet pour un effort de communication parmi les vétérans sans-abri en collaboration avec le comté de Los Angeles. Et finalement, nous croyons que ce modèle peut être utilisé et être intégré par d'autres systèmes de santé qui sont semblables aux anciens combattants par leur nature. Par exemple, des systèmes de santé nationaux qui ont tendance à être fortement décentralisés. Comme je vous en ai parlé au niveau des statistiques au début de ma présentation, le VIH et la pandémie de VIH continuent à être très préoccupants au niveau de la santé. Nous croyons que ces résultats sont des résultats très intéressants au niveau préliminaire pour non seulement augmenter le nombre dépistés pour le VIH, mais ce qui est plus important, pour augmenter le nombre de gens qui, en bout de ligne, vont recevoir le résultat de dépistage. Merci pour votre attention. Merci. Nous avons du temps pour une question rapide. Micro 3. Merci. Dr. Allen du Royaume-Uni. Votre article, plus de 50% des patients dans votre étude ont entre 50 et 64 ans. Est-ce que j'ai bien compris? Plus de 50% des patients avaient... Les anciens combattants ont une population assez âgée dans leur ensemble. La seule chose dans cette situation, c'est que le médecin qui... Est-ce que le dépistage par les infirmières dans cette situation n'est pas approprié? Comme je l'ai mentionné au début de ma présentation, nous faisons une recherche semblable où nous examinons les gens qui subissent des soins et que nous identifions comme étant à risque de recevoir du VIH et ils ne sont pas testés dans les nombres requis. Donc, ces patients ne sont tout simplement pas dépistés. C'est la raison pour laquelle il est essentiel d'envisager de changer le paradigme, l'éloigner des médecins et le mettre entre les mains des infirmières qui, pour une raison ou une autre, sont plus susceptibles ou ont davantage de temps ou avec les tests rapides pour le VIH peuvent donner ces tests rapidement. Alors, on manque de temps. Alors, merci. Alors, maintenant, nous allons passer au prochain article présenté par le Dr. Hakim. du Zimbabwe. C'est un traitement structuré pour une interruption, une stratégie d'interruption de 12 semaines pour les patients qui ont décidé des cas faibles avant l'ART, une randomisation à l'intérieur des essais DART. Merci. Il me fait plaisir, au nom de l'équipe d'études DART, de vous présenter cet article sur une étude qui est imbriquée dans l'essai DART principal, intitulé « Une interruption structurée de traitement, stratégie de cycle de 12 semaines avec et sans ART, ART, est cliniquement inférieure au traitement continu chez les patients à faible CD4 avant thérapie antirétrovirale. » Alors, l'historique, c'est que la thérapie intermittente a le potentiel de diminuer la toxicité à long terme, de diminuer le coût de la thérapie antirétrovirale et d'augmenter l'adhérence, le respect de traitement. Et ceci en maintenant le mieux-être clinique. Un essai randomisé en Côte d'Ivoire, l'étude africaine, qui est une interruption dirigée par le taux de CD4, différent de notre stratégie des ART, a déjà mentionné qu'il y avait une infériorité de cette stratégie comparée à la thérapie continue. Une préoccupation que nous avions, c'est qu'il y avait énormément de variabilité dans les CD4 au niveau de notre analyse et par conséquent, la possibilité d'utiliser une stratégie guidée par les CD4 peut avoir des limites. Une description rapide du principal dispositif d'ART. 3316 patients infectés du VIH sans traitement préalable en Ouganda et au Zimbabwe se sont présentés avec un CD4 de moins de 200. Dans les stages 2, 3 et 4 de l'OMS. Par conséquent, des patients qui ont été mis sur des antirétroviraux, mais la comparaison qui nous intéressait était à savoir si nous pouvons utiliser le suivi de laboratoire versus le suivi clinique uniquement. Et cette étude a été planifiée sur 4 ou 5 ans. Et les résultats primaires étaient une efficacité à mesurer qui était les événements de stade OMS4 ou le décès ou la toxicité, le résultat, donc un événement néfaste grave. Donc, en déclarant cette stratégie dite STI, l'étude imbriquée, comme telle, c'est une deuxième randomisation dans un sous-ensemble de patients qui avaient les deux résultats attendus que la première étude. Et c'était des patients qui avaient réussi à arriver à un CD4 de 300 ou plus après 48 à 72 semaines sur des antirétroviraux et ils ont été randomisés soit vers STI ou la thérapie continue. Et la stratégie d'interruption ici était des cycles de traitement pendant 12 semaines et non-traitement pendant 12 semaines, donc 12-12. 813 patients admissibles ont été recrutés et ont été randomisés entre juillet 2004 et mars 2006. Après la deuxième DSMC en mars 2006, basée sur des données qui ont été obtenues jusqu'au milieu de janvier 2006, ce traitement a cessé au milieu de mars 2006 et tous les patients ont été envoyés en thérapie continue. Les résultats, il y a eu 405 patients qui étaient en thérapie continue et 408 qui ont été randomisés vers la thérapie interrompu. Le seul aspect important de ces caractéristiques que j'aimerais vous présenter sont que la plupart des participants étaient des femmes. En fait, les trois quarts des participants ont été femelles. Le suivi et la thérapie reçue d'antirétroviraux. Il y a eu un bon respect de la thérapie. Et dans la stratégie ou du traitement, si vous regardez le traitement continu, le groupe CT, la trithérapie a été administrée 99% du temps pendant la période de l'étude. Et si l'on regarde le traitement d'interruption, la trithérapie a été donnée 50% du temps. En d'autres mots, il y a eu un bon respect de la stratégie de randomisation et cette Ce graphique l'illustre. Passons aux résultats, un résumé des résultats cliniques. Si nous regardons l'efficacité principale, l'issue d'efficacité, le stade 4 de l'OMS et le décès ont été observés dans 24 STI et 9 patients ayant reçu la thérapie continue. La première chose à remarquer, c'est qu'il y a eu une faible incidence d'événements. Deuxièmement, si on enlève les candidats non candidats, il y a eu seulement 14 événements dans le groupe STI et 8 événements dans le CT. C'est-à-dire que c'est la candidose qui a affecté la différence entre les deux groupes de traitement. Malgré tout, le taux de risque était de 2,73 entre les deux stratégies et ça, c'était statistiquement significatif. Le seul autre facteur que je voudrais vous montrer, c'est qu'il y a eu 5 décès dans le groupe STI et 4 dans la thérapie continue, avec un rapport de risque 1,3 qui n'est pas statistiquement significatif. Le deuxième aspect de l'étude, c'était la toxicité. Et si l'on regarde les événements adverses, le premier point d'arrêt, c'était les événements graves. Et il n'y a pas eu de différence significative entre les deux stratégies lorsqu'il s'agit des événements graves. Mais un autre aspect important était que si vous regardiez les événements adverses qui ont provoqué une modification de la thérapie antirétrovirale, il y a eu une différence statistiquement significative en faveur du traitement interrompu. Si l'on regarde les changements dans le taux de CD4, remarquez que 0 ici fait référence au moment de la randomisation, c'est-à-dire après que les participants aient déjà été exposés à la thérapie antirétrovirale. Il y a eu une augmentation dans la numération CD4 chez ceux qui ont reçu le traitement en continu, avec une variation dans le taux de CD4 chez les participants qui avaient le traitement interrompu, dépendamment de l'arrêt et de la reprise de traitement. En conclusion, le suivi médian après 51 semaines, la majorité des patients ont pu prendre des antirétroviraux de façon intermittente sans développement des événements OMS4, mais la stratégie associée avec une augmentation de 2,6 des événements cliniques, donc on ne peut pas le recommander, mais il n'y a pas eu de différence statistiquement significative dans la mortalité entre les deux traitements. L'étude DART continue avec ses objectifs principaux. Merci. Il y a du temps pour une ou deux questions rapides. Micro numéro 3. Oui, bonjour, je viens de Paris et plusieurs personnes des communautés sont en colère face à votre essai. Donc, combien de personnes sont décédées depuis le début des essais DART? Comment pouvez-vous garantir le libre choix de s'impliquer dans cette expérience? Parce que si vous quittez le traitement, vous n'êtes plus traité. Si vous quittez, merci. Je pense que c'est une préoccupation très valable. Et pourquoi embarquer dans un traitement si on se rend compte consciemment qu'il y a davantage de décès dans un traitement que dans l'autre ou dans l'essai dans son ensemble? Cet essai, pardon, est-ce que j'ai mal compris votre question? N'interrompez pas. Combien de personnes, c'est ce que je vous demandais, combien de personnes sont décédées? J'ai dit qu'il y a eu 5 décès dans le groupe qui ont été randomisés au traitement continu et 4 à ceux qui ont été randomisés au traitement interrompu. Et c'est sûr, je vous ai demandé l'essai dans l'ensemble. C'est ce que je vous présente à ce moment-ci. L'autre étude est en cours et nous pourrons vous donner les résultats au moment approprié. Mais je voudrais savoir combien de gens sont morts lors de l'essai. Docteur, nous n'avons plus de temps. Maintenant, nous passons au prochain sujet. Et le prochain sujet sera présenté par le docteur Ning Sang-sod. Donc, une expansion rapide du programme Art National en Thaïlande. Oh, pardon. C'est la docteure Paola Monderi qui présente cet article. Donc, le décès 2 ans après une étude de cohorte de la tuberculose en Ouganda. Merci. Je présente ce travail au nom de mes collègues ici et de l'équipe de l'étude d'art. Les données sur l'efficacité et l'impact des traitements antirétroviraux sont essentielles pour le traitement contre le sida en Afrique. Il y a peu de rapports africains et la plupart d'entre eux viennent de cohortes d'observation ART sans groupe de comparaison et ils ont surtout rapporté une survie à court terme. Dans notre côté du test d'ART, on avait une cohorte existante chez qui des données substantielles sur la morbidité, la mortalité pré-DART étaient disponibles. Alors, ce qu'on vous présente ici, c'est une comparaison de 2 ans post-traitement et de décès dans des patients qui étaient dans une cohorte pré-traitement antirétroviral. La cohorte d'Entebbe a été établie en 1995. Elle a enrôlé des adultes séropositifs autour d'Entebbe qui ont accepté de participer et qui ont tous reçu des soins de base par une clinique supportée par le MRC. L'essai d'ART a commencé à recruter en 2003 et c'est à ce moment-là que la thérapie gratuite était disponible pour la majorité de ces patients. Comme on peut le voir sur ces deux tableaux, le suivi est semblable chez les deux groupes, même si c'est plus fréquent chez DART, surtout par rapport à la prise en note des événements cliniques. Donc, pour cette comparaison et cette analyse, nous avons choisi une période de calendrier dans les bases de données de l'accord d'Entebbe chez qui aucun ART n'était disponible. C'est la période d'octobre 95 à décembre 2000. Et pendant cette période, 516 sujets qui auraient eu les critères d'entrée pour le test d'ART ont été recrutés dans la cohorte Entebbe. Et ceci représente des années personnes de 658 personnes années de suivi. Et ça se compare à 1015 patients qui ont été recrutés dans DART sur 2 ans, ce qui représente 1819 années personnes de suivi. J'aimerais vous dire que 6 patients ont contribué dans les deux cohortes et sont inclus dans l'analyse. Si on regarde les caractéristiques de référence des deux groupes, les deux tiers des patients dans les deux groupes sont des femmes. La cohorte pré-rétrovérale était plus jeune avec un âge moyen de 31 ans. Et ceux qui avaient une plus forte proportion de patients dans la catégorie des faibles CD4. Le nombre de décès, 62 décès se sont produits dans l'essai d'ART sur le site Entebbe, mais 380 décès s'étaient déjà produits chez la cohorte pré-antirétrovirale. Environ la moitié des décès dans les deux groupes se sont produits chez des patients qui avaient un CD4 de moins de 50. Et ce tableau illustre le calcul des taux de mortalité. Ah, j'ai perdu ma place. Désolé. Alors, ce que je vous montre ici, c'est le taux de mortalité stratifié par taux de CD4 au début de la cohorte. Globalement, nous avons une réduction d'un facteur de 17 dans la mortalité post-antirétrovirale plutôt que pré-antirétrovirale, et la différence est significative pour tous les groupes CD4. Et ce sont les courbes de survie Kaplan-Meier qui montrent la différence en survie entre les deux groupes. À un an, c'est 94% de survie, ou plutôt à deux ans, c'est 94% de survie dans l'essai DART comparé à 28% dans la cohorte pré-antirétrovirale. Et la survie est reliée, bien évidemment, à la numération de CD4 au début de la cohorte, et c'est ce que l'on voit en couleur en bas du graphique. Maintenant, je vais vous présenter les causes de décès. Ce sont les chiffres absolus pour les causes de décès et, en parenthèse, les taux spécifiques à la cause. Et ici, les patients qui avaient soit un syndrome ou une cause spécifique. On voit que le cryptococcus était la cause spécifique de décès la plus fréquente pré-antirétrovirale. Avec la thérapie antirétrovirale, il y a une diminution de décès à cause des pathogènes opportunistes, et la tuberculose est la cause la plus fréquente dans DART, même si les cancers et la bactériémie demeurent relativement importants. Le syndrome de dépérissement VIH a presque disparu post-ART avec les antirétroviraux, tandis que les décès non reliés au VIH sont demeurés assez semblables. Ça, c'est une comparaison historique et il faut l'interpréter avec prudence. Il y a des différences dans la fréquence de suivi entre les deux cohortes. Et une limitation supplémentaire, c'est que la cause de décès est inconnue chez 22% des patients. Certaines parties de cet effet peut être due à l'amélioration de d'autres causes, et c'est une observation dans un environnement de recherche clinique et donc avec un bon suivi de la part des patients. Mais malgré ces limites, nous pouvons quand même tirer ces conclusions. La thérapie antirétrovirale de première ligne que l'on utilise est très efficace. Une survie de 2 ans à 94%, et il y a une diminution globale de la mortalité par un facteur de 17. L'avantage au niveau de la survie lorsque le traitement débute à des CD4 très faibles. La réduction dans les mortalités associées aux pathogènes opportunistes ont été remarquées, et le syndrome de dépérissement sidéen a disparu. Mais on a remarqué que les cancers liés au VIH et la tuberculose demeurent importants, mais ces données montrent l'importance de la thérapie par rapport aux décès dus au VIH en Uganda. Merci. Merci, Paola. Nous avons du temps pour quelques questions. Micro numéro 2. Pardon. Micro numéro 3 plutôt. C'est pas une question, mais un commentaire. Dommage que ce groupe n'ait pas pu rester pour entendre tout le bon travail qui se fait dans l'essai DART. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Maintenant, nous allons passer au prochain article, l'expansion rapide du programme antirétroviral en Thaïlande, les résultats par rapport à la survie des patients de 2000 à 2005, et le conférencier sera le professeur P. Ningasund, et je m'excuse si j'ai mal prononcé votre nom. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée. Bonjour tout le monde. Je suis très heureux de partager avec vous les résultats de notre essai sur le traitement antirétroviral et les résultats de traitement en Thaïlande. Le programme national antirétroviral a commencé en 2000 et a pris une expansion nationale jusqu'en 2004 et en 2006 maintenant, avec les tests gratuits, les antirétroviraux gratuits et l'équipement pour le dépistage et le suivi. Notre critère pour commencer des antirétroviraux avec des, c'était un taux de CD4 de moins de 250. Nous avons un programme de commenter avec du D4T, 3TC et Nivirapen, ce qu'on appelle le programme GPOVIR. Ce sont des médicaments fabriqués par des pharmaceutiques gouvernementales en Thaïlande. Voici, on voit une augmentation de l'accès aux antirétroviraux dans notre pays. On a commencé avec un petit nombre en 2001 et à l'époque, nous avions un accès limité aux antirétroviraux. J'aimerais vous dire que ce chiffre montre les antirétroviraux gratuits, mais on a un autre programme de sécurité sociale et d'assurance privée qui font en sorte que plus de 100 000 personnes ont accès aux antirétroviraux en ce moment. Nous avons obtenu les données des documents, dossiers patients électroniques à partir de 2000, janvier 2000 à mars 2005, et on avait 746 sites à travers le pays, et c'est un système centralisé. Environ 42 000 patients ont visité les hôpitaux gouvernementaux avant mars 2005. Vous allez voir d'autres chiffres de nombre de patients recrutés avant 2003 et 1000 recrutés en 2003 et 2004. Et on a maintenu ce momentum jusqu'à présent, comme je vous l'ai montré dans le graphique plus tôt. Le temps de suivi médian est de 7,7 mois. L'âge médian au recrutement est de 34 ans. 52% des patients étaient des hommes. Le taux de référence en termes de CD4 était très faible. C'était de 46 cellules par millimètre cube. La moitié d'entre eux, 90% ont utilisé une base de nivérapine et 83% utilisaient des antirétroviraux pour la première fois. Cette diapo montre l'augmentation des CD4 chez les patients. On l'a divisé dans les trois cohortes des premiers groupes. Ont eu un suivi donc on a eu un suivi de 12 mois. Je ne sais pas pourquoi la diapo ne s'affiche pas. Ça s'en vient. Et la deuxième, c'est le suivi de 18 mois, et la troisième, c'est le suivi de 24 mois. Nous avons réussi à augmenter les numérations de CD4 dans ces trois cohortes, comme on le voit dans ce tableau. Cette diapo montre les changements de traitement parmi les patients dont le suivi était de plus de 12 mois. 15% sont passés à un traitement de deuxième ligne qui coûte plus cher. On avait presque... Le changement à l'éphédrine est de presque 70%. Et les... inhibiteurs de protéases, c'était 32% et les autres, c'est 9%. Le temps médian de suivi est de 12 et l'échec de traitement était les causes d'échec.
Cette diapositive nous montre les causes. Un suivi de 5 ans, l'interruption de traitement La raison principale est la mort, 42%. Et les pertes par suivi est de 36%. Cette diapositive montre le risque de mort par à cause du compte de Sedeca, comme vous le voyez. En rouge, vous voyez plus de 200 copies. Non, c'est 200 par millimètre cube. Particulièrement au cours des 6 premiers mois, pour la ligne en jaune, c'est le groupe de Sedeca bas au début de l'étude, avec alors les effets secondaires, les effets nocifs, je veux dire les effets nocifs, le taux est environ de 22% par patient année pour les effets nocifs quelconques, particulièrement les éruptions cutanées et l'hépatite sévère. Veuillez noter que ces chiffres, en conclusion, nous avons observé une amélioration significative du compte de Sedeca chez les patients qui observent le traitement. La plupart des patients ont été maintenus sur les traitements de première ligne. Un début précoce de l'ART a été associé avec une réduction de la mortalité. Les efforts, enfin, pour réduire le taux durant les 6 premiers mois, les efforts du programme devraient promouvoir une identification précoce de l'infection HIV/AIDS et un accès précoce au traitement. J'aimerais rendre hommage au département, le CDC en Thaïlande et à Atlanta, et des remerciements spéciaux à PL, au PLHA, aux personnes qui vivent avec le virus en Thaïlande. Est-ce que vous avez un peu de temps pour les questions? Pas de questions. Merci. J'aimerais remercier la première moitié des conférenciers pour leur présentation. Nous allons prendre une petite pause et nous allons demander aux deuxième série de conférenciers de venir sur la scène. Je voudrais présenter les deux présidents. D'abord, Dr. Ali Kader Farah, qui vient de Gando. Ali est un des co-présidents de la conférence mondiale sur le sida. L'autre co-président, Andy Zolopa, qui vient des États-Unis. Nous rencontrerons très bientôt. Alors, commençons avec la deuxième série. Merci pour sacrifier votre pause déjeuner et pour être avec nous. Mais je pense que c'est important. Notre conférencier suivant est le docteur Candy. Il va donner sa présentation sur la haute prévalence et de mortalité à partir de la tuberculose résistante chez les patients co-infectés par le VIH et la tuberculose dans l'Afrique du Sud rurale. Bon après-midi à toutes et à tous. Alors, l'épidémie HIV/AIDS, tuberculose en Afrique du Sud sont un peu interliées. Environ 80% des cas de TB sont liés au VIH. Le taux annuel de mortalité chez les patients courants infectés est environ de 40% avant la difficulté, la disponibilité des antirétroviraux. Nous avons pu réduire le taux de mortalité de 12% dans notre étude d'intégration TB-ARV. À Natal, environ 71% des décès étaient dus à des tuberculoses multirésistantes. La dernière enquête a été faite en 2002. Nous avons trouvé, on avait un taux de 1,7% de nouveaux cas de TB, alors que dans notre étude d'intégration, 9,1% des nouveaux cas de TB étaient des co-infections. En plus, 6 des 10 des patients TB-MDR avaient des résistances à toutes les résistances. Les médicaments de première et deuxième ligne contre la tuberculose. Des récents, on garde des souches de TB qui sont résistantes, mais aussi aux médicaments de deuxième génération, on les appelle des XDA. On a 347 isolats qui sont identifiés dans le monde. Peu de données sont disponibles concernant la présence de XDR-TB en Afrique et dans des environnements à haute prévalence de VIH. Par conséquent, l'objectif, nous voulions déterminer l'étendue de TB-MDR et de TB-XDR chez les patients présentant dans les districts ruraux de KwaZulu-Natal en Afrique du Sud. Nous voulons décrire les patients, les caractéristiques de traitement des patients atteints de TB-XDR. Nous avons fait une étude de intersection de patients que l'on suspectait avoir une TB active. Des isolés étaient collectés de cultures microbactériales de janvier 2005 à mars 2006. Les échantillons étaient faits en 3 étapes. La première étape représentait les soins standards en Afrique du Sud, où ceux qui nous avons choisi d'étendre l'enquête pour l'étape 2 pour tous les patients des services de traitement de la tuberculose. Enfin, dans la phase 3, nous avons collecté des échantillons de tous les patients qui avaient des symptômes homogènes avec la tuberculose. Alors, les tests de susceptibilité aux médicaments ont été faits sur toutes les cultures positives. Alors, nous avons fait des examens de dossier médical pour tous les patients qui présentaient des souches résistantes à tous les médicaments testés. Alors, les empreintes moléculaires ont été faites pour les isolats TBXIR. Des collectes de crachats ont été faites, 1539 patients dans toutes les trois phases combinées. 995 de ces patients avaient des cultures négatives pour la TB, pour la tuberculose. Parmi des 544 cultures positives, 221 avaient des résistances au azithromycine ou avaient une TB XDR. Pour placer en 53 des cas de XDR étaient résistants à tous les médicaments de première et deuxième ligne ou TB et XDR. En comparaison, il y avait 347 cas de TB XDR au total dans le monde décrit dans les récents rapports du CDC. Je vais me centrer sur les 53 patients de notre étude pour le reste de cette présentation. Alors, l'âge moyen était de 35 ans, la moitié étaient des femmes, et de façon surprenante, 79% des patients XDR avaient des crachats positifs. 51% n'ont jamais été traités auparavant. Leur TB-XDR a été leur première présentation pour la tuberculose. De plus, par ceux qui ont été testés, la majorité avait guéri ou avait seulement 7% de la cohorte avec des échecs de traitement de la TB ou avaient quitté le traitement. Étant donné que la majorité des patients n'ont jamais été traités pour la TB ou avaient des traitements antérieurs, les données suggèrent que ces patients ont été des nouvelles infections avec des souches résistantes. 64% des patients ont été hospitalisés pour une cause avant le début de la TB XDR. Deux travailleurs de la santé sont morts avec des TB confirmés XDR et deux autres sont suspectés d'avoir décédé de ça. Donc, la transmission nosocomiale dans les hôpitaux est probable. De plus, la transmission des communautés est également possible, car 36% des patients TB-XDR n'avaient pas d'hospitalisation antérieure. Enfin, 44 des 53 patients ont été testés pour le VIH. Tous étaient séropositifs. Le compte CD4 moyen était de 73. Seulement 16 étaient sur ART au moment de la tuberculose, de la maladie. Alors, les empreintes moléculaires, presque 80% des patients avaient des souches relativement similaires, ce qui suggère que les patients ont été affectés récemment par la souche résistante. La mort, 52 des 53 patients TB-XDR sont morts. La durée moyenne de survie après, à partir de la collecte de crachats, était 16 jours. Il n'y avait pas d'efférence significative en fonction des caractéristiques des patients. Ça monte un petit peu une courbe le taux de survie à partir du jour de la collecte de crachats. Comme vous pouvez voir, la majorité des patients sont morts dans les premiers 30 jours après la collecte de crachats. En résumé, les TB multirésistance est plus courante dans les districts ruraux de KwaZulu-Natal en fonction par rapport au taux publié récemment. En plus, une touche très résistante représente près de un quart de tous les cas de TB-MDR. Nous avons trouvé que cette affection était de récente transmission à la fois à l'hôpital ou à la communauté. Tous les patients testés à VIH étaient séropositifs. Cette maladie est rapidement et presque totalement fatale. Les implications, les TB-MDR et NXDR sont émergées comme consignes importantes de décès chez les patients co-infectés. Alors, la collecte de crachats de routine et des tests de sensibilité aux médicaments permet d'identifier les TB-MDR et NXDR comme cause de décès chez les séropositifs. Les succès de l'ARV et des programmes de TB-DOCS sont menacés par les TB-MDR et XDR. La transmission de ces TB doit être traitée en améliorant la survie des patients séropositifs co-infectés. Alors, voici nos recommandations. Les cultures de routine de tous les suspects de TB dans les environnements à haute prévalence de VIH doivent être mises en place pour déterminer l'étendue des infections TB dans ces populations. Il faut aussi identifier dès que possible pour le traitement. Il faut augmenter la capacité des laboratoires pour permettre les cultures de TB et les tests de susceptibilité aux médicaments. Alors, il faut des ressources pour renforcer les contrôles de programme de TB. Il faut augmenter la ventilation dans les services de traitement et ainsi de suite. Augmenter la vigilance pour identifier les patients non diagnostiqués. Il faut retracer les contacts avec tous les cas de TB, MDR, NXDR sont vraiment nécessaires pour la prophylaxie, pour les cas supplémentaires, et limiter la transmission dans la communauté. Enfin, il faut d'autres ressources pour renforcer les programmes de contrôle de la tuberculose afin de s'assurer qu'il y a des traitements adéquats pour réduire la mortalité par la tuberculose chez les patients co-infectés et séropositifs. Merci. Malheureusement, il n'y aura pas de période de questions parce que maintenant, il va parler un petit peu des traitements epharizène chez les patients naïfs, donc avec une grande variété de pré-traitements et des déconseillés. L'étude ACTG 50956, c'est mon plaisir de la part de mes collègues de présenter cette analyse. Je dois faire remarquer, c'est le travail de Isa Robado, qui ne pouvait pas, elle ne pouvait pas être là. Donc les données sont ces données et les erreurs sont les miennes. Alors qu'on rappelle, les traitements qui incluent deux inhibiteurs de nucléosides plus EFV sont largement utilisés pour les traitements initiaux des séropositifs. Mais il existe des inquiétudes concernant la puissance virologique de ce traitement pour les patients en maladie avancée, particulièrement les charges virales hautes ou les faibles CD4. Alors, et CTG 5080, c'était double aveugle randomisé, contrôlé par placebo. Ça qui est cluvé un petit peu, 3 et 4 avec des favorines, et aussi 3 chez les patients naïfs, avec n'importe quel compte de ces décalés. Les sujets étaient stratifiés en fonction de la charge virale, plus ou moins de 100 000 copies par millilitre, comme virémie d'entrée. Tous les sujets qui étaient sujets indépendamment des modifications de traitement pendant 96 semaines après la dernière randomisation. Alors, comme vous vous êtes peut-être familiarisé avec ça, il y a plus de 1147 inscrits entre mars 2001 et novembre 2002. Alors, le groupe avec A3 a été arrêté en février 2003 lorsque le traitement triple était inférieur à chacun des régimes doubles. Ces données ont été publiées. Plus récemment, nous avons présenté un suivi des groupes contenant EFV, ce qui a été étendu jusqu'en mars 2005. Il n'y avait pas de différence avec la trithérapie et le régime quadrithérapie après une moyenne de suivi de 3 ans. Et ces résultats ont été récemment publiés. Alors, les objectifs de l'analyse actuelle est de comparer les faits de la charge virale et des CD4 sur la réponse virologique et immunologique chez les patients traités par EFV dans cet essai et évaluer si l'ajout d'un troisième NRTI améliorait la réponse chez les sous-groupes. C'est un sous-groupe quelconque. Alors, ils étaient caractérisés en tant que sous-groupe prédéterminé en fonction de la charge virale et des CD4. Les associations de sous-groupes de charge virale et CD4 avec le risque d'échec virologique utilisaient les modèles Kaplan-Meier et Cox, où l'échec virologique était défini comme une charge virale supérieure à 200 copies. L'association avec des augmentations du CD4 à partir de l'état initial aux semaines 48, 96 et 144 utilisaient les modèles linéaires normaux. Les analyses présentées et c'était des intentions de traité, mais comme analyse de traité, on s'est confirmé les résultats. Alors, presque 765 sujets ont été inscrits dans les deux groupes, EFV, avec un suivi moyen de 144 semaines. Presque 20% étaient des femmes et plus de la moitié étaient des gens de couleur. Vous pouvez voir ici, entre les paramètres initiaux, près d'un quart des patients avaient plus de 30 000 copies par et 20% avaient un compte de CD4 en dessous 50. Donc, c'était une grande cohorte pour l'analyse. Alors, montre un petit peu stratifié en fonction de la charge virale stratifiée. On voit qu'il n'y avait pas de différence entre les couches de données en fonction de la virémie initiale. Lorsque nous regardons en fonction des CD4, de façon curieuse, il semble qu'il y ait un taux d'échec supérieur avec les gens qui avaient le plus de CD4. C'est expliqué par des sujets qui sont rentrés avec des hauts CD4 et qui décident qu'ils ne voulaient pas suivre un traitement et l'analyse de traitement a montré les différences chez les groupes. Ensuite, cette diapositive un petit peu le risque d'échec virologique en fonction de charge virale à l'état initial ou les conseils des cas initiaux. Voilà la population de référence et le groupe avec la charge virale à 300 000, supérieure à 300 000. Et en comparaison, il n'y avait pas de différence dans le risque des échecs pour aucun des groupes. En d'autres mots, aucun autre groupe n'a fait mieux que le groupe avec la plus grande charge virale. Et de façon similaire, à droite, avec le groupe de référence et le groupe avec le compte de CDC le plus faible, encore une fois, tous les groupes ont eu des réponses similaires en matière de risque d'échec virologique. Si l'on compare maintenant le risque d'échec chez les patients qui reçoivent 3 médicaments par rapport au traitement et 4 médicaments par couche, encore une fois, vous pouvez voir que dans l'ensemble, il n'y avait pas de différence entre les groupes à 3 ou à 4 médicaments, et il n'y avait pas de différence par couche en fonction de la charge virale et par couche de CD4. Maintenant, nous regardons la proportion de sujets qui ont atteint une charge virale de moins de 50 copies par millilitre. Vous pouvez voir très évidemment que les courbes en termes du temps jusqu'à la suppression, ça reflète un petit peu, il faut plus de temps pour avoir une suppression virale avec eux qui avaient une charge virale plus grosse, mais il n'y avait pas de différence dans la proportion de sujets qui avaient et maintenu une suppression virale indépendamment de la charge virale initiale. De la même façon, il n'y avait pas de différence en fonction des CD4 initiaux. Si on regarde maintenant les changements dans les CD4 à partir de l'état initial, vous pouvez voir que ceux qui sont entrés avec les CD4 les plus hauts, les de virémie plutôt, en orange, avec le meilleur augmentation des CD4, mais à part ça, il n'y a pas vraiment de différence significative entre les couches. Et si nous regardons l'augmentation du compte de CD4 en fonction du CD4 dedans, les groupes sont très similaires. Il y a un petit peu du bruit avec la charge virale la plus élevée. Les codes de CD4 à cause des gens qui ont abandonné le traitement parce qu'ils avaient des bons CD4 au début de l'étude. Donc en conclusion, après une moyenne de 3 ans, plus de 80% des patients avaient une charge virale de moins de 50 copies par millilitre, avec des CD4, une augmentation moyenne des CD4 de près de 278 cellules par millimètre cube. La charge virale et le CD4 n'étaient pas associés avec les résultats de traitement. Ces résultats démontrent la puissance des régimes efferine dans toute une des grands intervalles de CD4 et de charge virale. L'addition, l'ajout d'un troisième NRTI n'a pas amélioré les réponses des groupes quelconques. Je voudrais rendre hommage aux efforts de tout l'équipe de l'étude, en particulier Crab Kulik, qui était notre président de protocole, et bien sûr Ezri Bodo et ses statisticiens au centre de biostatistique et de recherche sur le TIDA, qui ont vraiment fait toutes les analyses. J'aimerais aussi rendre hommage le soutien du reste de l'équipe et les comparants pharmacologiques pour les laboratoires de virologie et la division du SIDA qui a supporté ce travail et les patients volontaires. Merci. Nous avons un peu de temps pour les questions. Numéro 2, John Miller de l'Université de Pittsburgh. Est-ce que vous avez des différences dans la fréquence de résistance, de mutation avec résistance, dans les différentes, en fonction des différents paramètres initiaux pour les échecs de traitement? C'est une bonne question, on n'avait pas analysé ces données. Autre question? Merci. Passons à la présentation suivante. Nous avons maintenant le Dr Grunfeld. Il va parler de l'hormone de croissance humaine recombinante pour traiter l'adipose associée au VIH, le syndrome de redistribution, un traitement de 12 semaines d'induction et d'entretien de 24 semaines. J'aimerais remercier les organisateurs pour m'inviter à présenter les résultats. C'est la deuxième de grande étude sur l'hormone de croissance humaine recombinante. Je vais présenter de la part du groupe et des expérimentateurs. c'est je vais présenter les données pour l'induction à 12 semaines et le traitement d'entretien de 24 semaines. Alors, l'infection VIH est unique. Les deux changements ont des conséquences métaboliques et ça donne un petit peu, c'est un double trouble. Cette virus va se, avec une séropose comme déterminée par les critères anthropométriques. Les patients peuvent une dyslipidémie, une résistance à l'insuline, une intolérance au glucose. Il y avait aussi d'un petit peu une pauvre qualité de la vie. Alors, vous voyez un petit peu le type de graisse en noir sur ce T-scan, VAT, les patients avec le syndrome par rapport au contrôle, aux témoins sains, ils ont moins de graisse sous-cutanée dans l'abdomen et ils ont moins de gras. Donc c'est un essai randomisé de phase 3, la phase d'induction est moins de 12 semaines, était randomisé à 4 mg de façon tous les jours d'un rapport de 3 à 1 par rapport à ceux qui ont reçu le placebo. La réduction de VAT à 12 semaines par rapport au placebo. Alors ce, sur l'hormone de croissance, était randomisé dans une phase d'entretien pour les jusqu'à 36 semaines, la moitié reçoit l'hormone de croissance à 2 mg à des, les jours, une fois tous les deux jours, et la moitié recevait le placebo. Ceux qui prenaient le placebo recevaient une hormone de croissance, une induction de grosse hormone, et les résultats sont similaires à ce groupe, mais nous ne vont pas être présentés aujourd'hui. Nous ne présentons pas également l'étude des deux prolongements. Pendant la phase d'entretien, le point terminal préspécifié est que ceux qui ont reçu l'hormone de croissance, moins de 50% d'entre eux reprenaient plus de 50% du tissu adipeux qu'ils avaient perdu dans la phase d'induction. Alors, le critère d'admissibilité d'avoir une infection VIH ou d'avoir commencé un traitement antiviraux, un excès de VAT par critère anthropométrique, alors, une augmentation et une augmentation du diamètre de la taille. Il y avait une différence entre hommes et femmes. Les patients qui étaient diabétiques étaient exclus. Les agents hypolipidémiants étaient permis. Et nous avons fait des critères de tolérance au glucose au niveau, avec une exception, ceux seulement qui avaient un glucose au jeûne en dessous de 110 mg étaient exclus, après une charge de glucose de 75 grammes par voie orale. Alors le point dans final à la deuxième semaine, le point secondaire était la graisse au niveau du thorax DXA, un profil de lipidémique pendant le jeûne, et il fallait maintenir la réduction des graines. Alors les caractéristiques initiales du groupe placebo et du groupe avec l'hormone, du groupe qui recevait l'hormone de croissance étaient similaires. Les points essentiels, nous avons environ 4% de femmes, le compte de CD4 était environ de 400, on avait le pourcentage était de 22. Les seules les différences statistiques et l'utilisation de NRTI, NNR, NTI. Donc, vous voyons maintenant, ça la montre, les résultats des points finaux primaires et secondaires. Cette diaporitive, le placebo est à gauche, l'hormone de croissance est à droite. Le point final principal, c'est la réduction de l'adipeuse. Vous pouvez voir qu'il y a plus de 20% de réduction à partir de l'état initial jusqu'à la 12e semaine de la phase d'induction, ce qui est statistiquement significatif que par rapport au placebo qui regagnait du parallèle. Ça a été parallélisé par la graisse au niveau du thorax avec l'hormone de croissance par rapport au placebo. La perte de graisse était beaucoup moindre pour l'hormone de croissance par rapport à la perte de graisse thoracique chez le tissu adipeux. la graisse sous-cutanée était moins que la perte.
Oui. Voici les profils de cholestérol, alors du début jusqu'à la 12e semaine. Le cholestérol LDL, un lipoprotéine clé dans les patients qui sont séropositifs, a été réduit de façon significative par des hormones de croissance, et ce qui était très différent du placebo qui n'avait pas changé. Le cholestérol LDL a diminué dans les deux groupes et aucune différence entre les deux. Le cholestérol HDL, le bon cholestérol qu'on dit, a augmenté un petit peu avec l'hormone de croissance. C'était significatif et différent comparé au placebo. Les patients qui ont débuté avec une dyslipidémie avaient les plus grands changements favorables et une diminution dans les changements au niveau du LDL, du HDL. Durant l'entretien, la dose d'entretien a atteint l'objectif de moins de 50% de reprise. Les chiffres étaient de 40% qui prenaient les hormones ont pris plus de 50%, placebo échec de 50% qui ont pris plus de 50% du poids qui avait été perdu. Alors les critères portaient sur ceux qui avaient perdu d'une graisse adipeuse, 85% qui prenaient une hormone de croissance. En ce qui concerne tous les patients avec une intention de traiter, il y avait encore une perte de 15 cm en hormone de croissance dans l'entretien. Ce sont ceux dans le placebo ont enregistré un petit changement aussi et n'étaient pas très différents des deux au plan statistique. Mais non, au point final, des deux qui ont perdu, la diminution à la fin de l'entretien était plus prononcée à 27 cm carrés. Ceux avec le placebo étaient en deçà de 10% du niveau de référence et la différence entre les deux n'était pas statistiquement significative. Maintenant, le profil d'inocuité pour ceux qui ont reçu l'hormone de croissance, alors y compris ceux qui ont reçu l'induction et l'entretien en bleu et ceux qui ont eu l'autre en rouge avec le placebo, aucune différence significative sur la période de l'étude. En ce qui concerne le décompte CD4, les niveaux ont augmenté durant l'induction, tel que prévu, jusqu'au niveau que nous avions anticipé, vu les autres études avec les hormones de croissance. Avec le placebo, ont chuté jusqu'à la normale. Et ceux en entretien avaient des niveaux inférieurs qui étaient conséquents avec la dose d'entretien. Il y avait une augmentation transitaire en glucose deuxième semaine et déjà qui diminuait sur une période de 12 semaines d'induction qui était conséquente avec les données d'autres études avec une résistance intérimaire durant la thérapie d'entretien et aucune différence comparée au placebo et un changement quelque peu parallèle dans la résistance pour l'insuline pour le GTT à 12 semaines. L'événement indésirable le plus fréquent qui diffère des autres études, l'édème périphile, des arthralgies, hypostésie, myalgie et une augmentation du glucose sanguin. Plus de 95% des événements étaient légers à modérés, aucune différence significative entre les deux groupes, placebo versus hormones de croissance durant l'induction, et presque tous les événements sérieux n'étaient pas jugés comme étant liés aux médicaments. Je souligne qu'il y en a qui avaient une hyperglycémie et indiquant qu'il y avait une propensité pour le VIH et la croissance hormonale peut augmenter le taux de glucose durant la phase d'entretien. Et encore une fois, ce sont les patients qui ont reçu l'hormone de croissance. La prévalence des effets secondaires, 95% de ces effets étaient légers à modérés et rien de sérieux. Alors, pour conclure, la thérapie d'induction avec 4 mg par jour en hormones de croissance, réduction significative dans la réduction du gras autour du tronc, En thérapie d'entretien, a atteint les objectifs. Moins de 50% des patients prenaient plus de 50% de ce qu'ils avaient perdu lors de l'induction. Amélioration dans le profil de cholestérol, le profil d'inocuité tel que prévu concernant les effets secondaires, légers à modérés, une plus grande perte de gras autour du tronc qu'au niveau des viscères et avec des augmentations intérimaires de glucose. J'aimerais remercier les chercheurs, les participants et tous les employés. Bon, malheureusement, la présentation a pris trop de temps, donc il n'y aurait pas de questions. Et notre prochain présentateur, c'est le docteur Ramadani. Sa présentation porte sur les producteurs de l'échec virologique et la résistance de drogues anti-VIH chez les patients recevant une dose fixe de combinaison stravidine, lamivudine et virapine en Tanzanie du Nord. Merci et bon après-midi. Donc, c'est le sujet que je vais présenter, comme on l'a dit. Et je fais ça au nom de mes co-auteurs, au Centre médical de Kilimanjaro et à Duke University. En toile de fond, l'accès à RT est en expansion rapide en Afrique. RT gratuit en États-Unis a été déclaré en 2004 dans des centres hospitaliers. Par contre, avant ce moment-là et durant la transition vers une thérapie gratuite, les patients payés pour la RV et aussi la prévalence pour l'échec virologique et la résistance, qui sont des indicateurs de la qualité des programmes de traitement. Cette information est nécessaire pour optimiser les programmes ARV en Afrique sous-saharienne. Par conséquent, l'objectif de l'étude, c'est de déterminer l'étendue et les facteurs de risque pour l'échec virologique dans une cohorte et de décrire les mutations de résistance génotypique et les facteurs de risque de cette résistance pour les patients qui échouent en thérapie. Pour enquêter sur ces méthodes, on avait une étude de cohorte rétrospective avec 150 séropositifs adultes identifié qui avait reçu le FDC DKT3TC NVP pendant 6 mois ou plus. On a enrôlé des patients consécutifs qui se présentaient pour un suivi au Kilimanjaro Christian Center Diseases Clinic et avec un questionnaire normalisé pour toutes les personnes. Alors, il y avait des questions sur la sociodémographie, les conditions économiques, VIH, connaissances des ARV, croyances, divulgation, conformité au traitement et accès aux soins. Plasma était obtenu des patients pour la quantitation avec le Roche Applico Assay et le HIV Genotypic Resistance Testing, donc les tests pour la résistance génotypique VIH. Pour les fins de cette étude, l'échec virologique, c'était l'ARN VIH égale à 400 copies ou plus, résistance de drogue égale à 1, NRT ou NNRTI en mutation, utilisant les chiffres de la société SIDA. Maintenant, ici, voici les constats en ce qui concerne les prévalences, l'échec virologique et la résistance dans cette cohorte. Les 150 étaient enrôlés, 94 sur 63 étaient des femmes et l'âge moyen était de 41 ans. Le décompte CD4, 113 cellules, durée d'ARV 12 mois et 23 ou 16%, avait une conformité de moins de 100%. Voici les résultats pour l'échec virologique. Plus de 100, tous les 150, 32% étaient en période d'échec virologique. Voici les facteurs de risque avec une analyse bivariable. On voit ça en noir, y compris la proportion de mois sur une thérapie ARV qui était autofinancée ou donnée gratuitement. Et divulgation du bilan VIH aux personnes, hormis les employés de clinique. Un nombre de facteurs n'était pas... Nombre de facteurs n'étaient pas associés à l'échec virologique et sont illustrés en gris. L'échec virologique était associé au le nombre de mois sur ARV qui était autofinancé et divulgation du statut VIH. Pour comprendre comment l'ARV est associé à l'échec virologique pour le taux financement, on a démontré que les personnes qui payaient pour l'ARV étaient plus susceptibles de ne pas être en conformité. Et vous avez les valeurs à l'écran. Donc, les ARV autofinancés étaient associés avec une mauvaise conformité et donc augmenter le risque d'un échec virologique. Et maintenant, pour les sous-types, maintenant les résistances génotypiques, comme j'ai mentionné plus tôt, sur les 150 sujets, 48 étaient en échec virologique. De ces génotypes, 35 sujets avec 1000 copies ou plus. De ces 27, 77% pouvaient être séquencés. Avec égal à une résistance ou une mutation de résistance. Ceci résume les résultats de résistance génotypique à leur mutation dans les patients qui recevaient NRTI. Comme vous voyez, dans la première AG, 13% des patients n'avaient qu'une seule mutation et c'est des mutations qu'on voit souvent dans les NRTI. Deuxième AG, 47% en avaient deux. Tous avaient des mutations NRTI, M184V7 et une combinaison des autres. Dans le troisième groupe, 40% avaient 3 ou plus. Alors, M1 et les autres que vous voyez à l'écran, tous avaient des mutations NNRT et la mutation Q151M1. Alors, voici les analyses bivariables quand on recherche un ou plus, une mutation ou plus. Alors, vous voyez la formule avec un décompte CD4 moins de en bas de l'initiation du traitement moyen. Les gens qui prenaient l'arrivée pendant 6 mois avaient des épisodes d'échec virologique. Des patients qui payaient pour l'arrivée étaient à risque pour l'échec virologique à cause d'une mauvaise conformité parce qu'ils ne pouvaient pas toujours payer la thérapie et la divulgation de leur statut VIH. C'était une façon de composer avec le côté social, était assez associé à l'échec virologique et aussi la présence de mutations de résistance est associée à un décompte faible de CD4 en début de traitement. Nous croyons que ces données nous permettent de faire des recommandations. Il est important que des efforts soient déployés pour continuer à fournir des RV gratuits et de promouvoir des façons de pouvoir composer au plan social. Et deuxièmement, on redouble les efforts pour déceler de façon précoce. On pourrait avoir du counseling bénévole et des tests routiniers. Et des tests plus routiniers même chez les gens qui ne se sentent pas malades. Et nous avons trouvé que cette étude est utile pour évaluer les programmes, comment optimiser ARV dans notre milieu et d'identifier les ratés très tôt dans ce groupe de patients. J'aimerais aussi remercier tous les gens chez KCMC à Duke et Kewakoke qui ont rendu l'étude possible et aussi reconnaître l'appui du US National Institutes of Health, surtout le Duke Centers for AIDS Research, the AIDS International Training and Research Program, du Fogarty Center qui ont aussi financé non seulement l'étude mais aussi ma formation. Merci de votre attention. Merci beaucoup. On n'a plus de temps, alors pas de questions. Et maintenant, on va changer de coprésident. Merci. Alors, on tire vers la fin de ce marathon. Et comme la plupart des marathons, c'est les derniers kilomètres qui sont les plus pénibles, mais surtout très utile. Et voici Mark Woods de Aaron Diamond à New York qui va présenter l'effet antirétroviral puissant de MK0518. Alors merci de nous laisser présenter ces données. Je fais ça avec mes autres chercheurs et l'équipe de développement scientifique. MK518 est un inhibiteur avec une grande activité in vitro avec un IC de 23 nanomètres dans 50% de sérum humain. Alors, c'est un métabolisme qui passe directement par la glucuronidation. Il y a des doses de 100 à 800 mg deux fois par jour, 100 mg deux fois par jour, à un niveau qui dépasse le CIC 85. Il n'y a pas d'ajustement de dose avec d'autres ARV d'aujourd'hui. Protocole 004 avait une conception assez unique, 40 patients qui étaient dans la monothérapie, 4 doses de M4518, 100, 200, 400 et 600 mg deux fois par jour, comparé au placebo. Après que les données étaient recueillies, il y avait une analyse intérimaire de la donnée pour appuyer, pour passer toutes les doses à la deuxième phase, où il y avait d'autres 150 patients qui ont été recrutés et randomisés pour recevoir tenofovir 3TC en combinaison avec une des doses de MK518 et avec un favarine 600 mg une fois par jour qui était le point de comparaison. Les critères d'inclusion susceptibles à Feference 3TC, antinofivir, partinotate, PLA étaient naïfs, charge virale plus de 5000, CD4 plus de 100. Et les points finaux, bon, typiques pour l'inocuité. Niveau de référence était équilibré parmi les groupes, les patients en moyenne étaient dans la trentaine, souvent des hommes. Pas de race blanche, CD4 à 300 ou un petit peu plus, et 30-40% des courants avaient un diagnostic de sida. Voici le bilan du patient après 24 semaines. On voit que le médicament était très bien toléré, très peu d'interruptions ou d'abandon. Il y avait un total de 10, 2 ou 200 mg, parce que c'était pas efficace, 1 dans les 600, parce qu'il y avait des événements indésirables. Les autres abandons, c'était des questions administratives. Voici la charge virale d'étale avec le 400 copy assay. Tous les groupes ont une chute dans la charge virale dans les premières semaines avec un ralentissement durant les prochaines semaines, 24 semaines, avec une réduction de 2,5 log dans tous les groupes. Le pourcentage de patients qui sont en bas de 400 ml ou échec total, toutes les doses à MK518 et Favarens de la semaine 24, avec une charge virale moins de 400 dans plus de 90% des cas, et il n'y a aucune différence entre les groupes. Par contre, ce qui est intéressant, en regardant le taux auquel les patients passent du niveau non décelable, avec l'essai moins de 50, dans tous les groupes, le taux, la vitesse à laquelle ils passent au niveau non décelable est plus vite que le groupe Favarens. Et c'est très significatif aux semaines 4 et 8, mais à la 24e semaine, 85 à 90% des patients avec des charges virales qui sont inférieures à 50, il n'y a aucune différence entre les groupes. Les réponses virologiques, il y avait aussi une réponse immunologique de 100 à 150 cellules. Dans les groupes, aucune différence entre ceux-ci. Le médicament est bien toléré, simple. Toutes les doses de MK518 dans une colonne ici, et Favarens dans l'autre colonne. Dans les 160 patients qui étaient exposés, il y avait des cas de nausées, de maux de tête, étourdissement, diarrhée, insomnie et des rêves bizarres. Et quelque peu qui survenaient aussi dans le groupe Favirens. Pour l'innocuité, la plupart des événements étaient légers à modérés. Il y a eu 8 événements sérieux lors de l'étude, mais aucune n'était considérée comme étant reliée au médicament. Il y a eu un patient qui a interrompu pour prendre des tests hépatiques et d'autres anomalies grade 3 et 4 qui étaient normales ont fait qu'on a discontinué. Pour conclure, MK0518 est un nouvel inhibiteur d'intégrase qui est très puissant avec une bonne activité antirétrovirale et vous donne les effets que vous avez à l'écran et toutes les doses étudiées avec 4 semaines. Une grande activité antirétrovirale en combinaison, 85 à 95% des patients avaient des charges virales inférieures à 50. Il est important de noter que la suppression était atteinte plus rapidement comparée au groupe Favarens et de façon générale, le médicament était bien toléré. Merci. Bon, on a du temps pour les questions. Marie, croyez-vous que cette chute, vous êtes passé en bas de 50 pour l'inhibiteur, est-ce que c'est différence de puissance? Non, la différence dans le taux ou la vitesse quand on passe au indécelable n'est pas expliquée. C'est peut-être pharmacocinétique, c'est peut-être des différences dans la puissance même du médicament. Le fait qu'il y avait des différences aux semaines 4 et 8 suggère peut-être qu'il y avait un effet lors de la deuxième phase qui mérite plus d'études. Micro numéro 3. Connie Cunningham, Duke University. Alors, si j'ai bien compris, vous avez des individus qui étaient en monothérapie et par la suite sont passés en deuxième phase. Est-ce que la réponse était différente au traitement comparé à ceux qui ont commencé tout de suite en trithérapie? Non, il n'y avait pas de différence. Les deux patients qui ont échoué étaient des patients qui avaient commencé en trithérapie. Micro numéro 3. John Nguyen, Merrill Lynch, New York. Les patients qui interrompu l'étude à cause de l'événement indésirable, des problèmes hépatiques. Est-ce qu'il s'est rendu jusqu'à la fin de l'étude? Non, il ne s'est pas rendu jusqu'à la fin de l'étude. Les tests hépatiques, les anomalies s'étalent vers la quatrième semaine. La personne suivait une thérapie INHS de façon chronique. Les LFT ont augmenté, le médicament a été cessé. On a repris le patient et ces anomalies ont réapparu. Alors, je crois que le traitement a été interrompu après la 8e semaine. Question numéro 3 et la dernière. Merci, puisque toutes les doses étaient équivalentes essentiellement. Quelle est la dose recommandée? C'est pas à moi de recommander les doses. Non, c'est à nous, mais je peux vous dire que le 400 mg deux fois par jour est utilisé dans le prolongement de cette étude jusqu'à la semaine 26 et aussi dans les études de phase 3 qui utilisent 400 mg dans des patients d'expérience. Et voici Dr. Howard Meyer de Pfizer. C'est l'inacuité et efficacité de Maraviroc, un nouveau antagoniste CCR5, en combinaison avec une thérapie de fond pour le traitement Le titre lui seul prend toute la présentation. Alors, bon après-midi, ça fait plaisir de vous présenter les résultats de 24 semaines. Alors, l'inocuité du Maraviroc avec un traitement, ça c'est pour des patients non naïfs. Maraviroc, c'est un antagoniste R5-CCR5 réversible sélectif, actif in vitro. N'est pas active in vitro pour Exfortropic ou les autres qui sont à l'écran. Et généralement bien toléré dans les bénévoles en santé. Une réduction de 1 log dans tous les patients avec R5-Tropic HRV1 traités en monothérapie et Maraviroc 100 mg deux fois par jour ou plus. L'activité in vitro, mais en monothérapie à court terme, on a eu un autre programme développé pour évaluer l'efficacité et l'innocuité. Il y a 3 études en phase 3 en développement clinique, 2 pour les patients non naïfs et d'autres avec un groupe naïf. Près de 2000 patients se sont inscrits. Il n'y a plus de candidats possible et on continue l'étude. Le raisonnement avec des affections doubles ou mixtes tropiques. On peut avoir une excroissance de X4 tropique lorsque le patient est DM tropique traité avec un antagoniste CCR5 et le reste est à l'écran. Le patient avec ce cas-là, aucun changement de la charge virale, mais une suppression apparente de la composante R5 de leur infection avec une expansion de leur 4 à 1.
On this basis, we designed a phase 2B pilot study specifically to evaluate the safety of Maraviroc in patients with non-CCR5 tropic HIV-1. Following a 4 to 6 week screening and randomization period, patients who were failing and on a stable regimen.
Trois, six antirétroviraux choisis selon génotype, phénotype, et de plus, Maraviroc une fois par jour, ou deux, ou placebo. C'est une étude de 48 semaines. Avec une vérification avec la semaine, randomisée à double insu, contrôlée par placebo, les critères d'admissibilité, extrapique et autres, déterminés par le monogramme. Et naïf, avec au moins 3 mois d'expérience avec 3 classes ou une résistance aux 2 classes. Les patients devaient avoir au moins un médicament actif dans leur thérapie, soit un NRT, un IP ou un fever type. La population, 190 patients randomisés, 186 patients étaient traités avec au moins une dose de médicament à l'étude. La moyenne d'âge, début de la quarantaine, 10-15% des patients étaient des femmes, 20-30, pas de race blanche. Et une population mixte tropique ou double, 58 patients dans le groupe placebo, 57 dans le une fois par jour et 52 dans le Maraviroc deux fois par jour, ce qui représentait la population primaire.
Par rapport la thérapie s'est choisie. Plus de 90% des patients dans chaque groupe a reçu un inhibiteur de protéase dans sa thérapie et entre 50 à 60% des patients ont reçu de l'infuvirtide dans sa thérapie. Le nombre de médicaments actifs a été composé comme une composite des scores de classe virale. Il y a eu davantage de patients dans le groupe Maveroc QT qui avait 0,1 médicament actif versus 21,3% dans le groupe deux fois par jour. Il y avait 4 patients dans l'étude qui avaient plus de 4 médicaments actifs et tous ces patients étaient dans le groupe Maveroc deux fois par jour. C'était une population très affectée par le VIH. Le CD4 médian était de 40 dans chacun des groupes et la charge virale médiane était de plus de 5 logs dans chaque groupe. Voici le résultat d'efficacité. Le résultat de l'étude était le changement moyen du niveau de référence à 24 dans le VIH1 au niveau de l'ARN avec des groupes témoins étant à 0. C'était comparable entre le placebo et le groupe Miravera QT moins 9,7 et 9,1 copies log par millilitre respectivement, mais un petit peu plus élevé, mais pas significativement, moins 1,2 copies dans le groupe Miravera que deux fois par jour. Donc, aucun des traitements de Miravera a été supérieur au placebo. Par rapport au résultat de l'efficacité secondaire, les patients qui avaient une charge virale de moins de 400 copies par millilitre étaient comparables, 21,4 et 21,6% respectivement dans le groupe placebo et Maraviroc QV et un petit peu plus élevé dans le groupe BID Maraviroc. Le pourcentage de patients qui avaient une charge virale de moins de 50 copies par ml était plus grand à la fois dans le groupe Maraviroc et le plus élevé dans le groupe Maraviroc BIDI plutôt que le placebo. Et la diminution moyenne de la charge virale jusqu'à la semaine 24 dans les patients qui ont reçu de l'infuvirtide dans la thérapie optimisée était aussi plus grand à la fois dans le groupe Maraviroc que dans le groupe placebo. Nous avons aussi regardé les changements dans le CD4 total par rapport à la référence. Il y avait une augmentation de CD4 qui était plus grand dans les deux groupes traités au Maraviroc comparé au placebo, plus 60 et plus 62 dans les deux autres groupes respectivement, comparé à plus 36 dans le groupe placebo. On n'a pas vu ces effets de façon constante pour les CD4. On a aussi évalué les patients qui avaient seulement le virus CX trophique tel que détecté par le test lors de l'échec virologique et c'était plus susceptible de se produire dans les deux groupes traités au Maveroc et ça s'est produit dans 12 patients dans chacun des deux groupes traités avec le médicament, seulement 2 patients au placebo et même chez ces patients qui avaient le virus trophique lors de l'échec, il y avait des augmentations dans le CD4 absolu à la fois dans les deux groupes traités au médicament comparé aux deux patients dans le groupe placebo qui avaient eu une diminution de CD4 avec une moyenne de moins 1,4. En général, le Maraviroc était très bien toléré. Les événements néfastes, graves ou menaçant la vie, de même que la cessation ont été bien équilibrées entre les deux groupes traités. Il n'y a pas eu de cas de lymphome ou d'adénocarcinome rapportés. 13 événements de catégorie C se sont produits, 7 dans le groupe Maraviroc QD et 3 dans le groupe Maraviroc BID et 3 dans le groupe placebo. Il y a eu 7 décès chez des patients sur le médicament et aucun considéré comme étant relié au médicament. 2 dans le groupe Maraviroc QD, 2 dans le groupe Maraviroc BID et 3 chez le traitement placebo. Par rapport aux anomalies d'enzymes hépatiques, il n'y a pas eu de catégorie 3 ou 4 lorsque la dose est élevée, 1 dans le groupe Maraviroc QD et 3 dans le groupe placebo. Les anomalies au niveau de l'AST étaient distribuées de façon équivalente entre groupes de traitement. Les anomalies au niveau des enzymes hépatiques totales étaient reliées souvent à l'utilisant de l'anisavir dans la thérapie optimisée. Donc, en résumé, sur la période de 24 semaines de l'expérience dans les patients avec la maladie et une expérience de traitement, le Maraviroc en combinaison avec une thérapie de fond a été bien toléré en général. Il n'y a pas eu de cas d'hépatotoxicité, de lymphome ou d'adénocarcinome. comme on pourrait s'y attendre dans une population double ou mixte trophique, le Marivaroc avec une thérapie optimisée n'a pas eu une réduction supérieure de charge virale comparée au placebo plus une thérapie de fond optimisée. Ce qui nous surprenait par contre, c'est que le Marivaroc plus une thérapie de fond optimisée a été associée avec un CD4 plus élevé que l'autre thérapie et il faut étudier cette question davantage. Et enfin, les patients qui ont reçu le Maraviroc plus une thérapie optimisée étaient plus susceptibles d'échouer avec le virus ex-CAC trophique que les patients qui ont reçu le placebo. Mais les patients qui ont été traités avec le Maraviroc et qui avaient le virus ex-CAC trophique au moment de l'échec virologique avaient des augmentations dans le CD4 qui étaient en lien avec ce qui se produit dans la population traitée au Maraviroc dans son ensemble. J'aimerais remercier d'abord et avant tout les patients qui ont participé dans cette étude, les enquêteurs et les employés et les collègues de Monogram Bioscience, les collègues de Pfizer sur l'équipe Marivaroc et les autres auteurs de cet article. Merci beaucoup. Merci, Howie. Ce sont des résultats intrigants. Malheureusement, nous devons passer. Nous n'avons pas de temps pour des questions. Le prochain article sera présenté par le professeur Pedro Tan. C'est une étude de phase 1 pour étudier la sécurité, l'interopérabilité, la pharmacocinétique de fosalvudine, tutidoxil chez des patients vivant avec le VIH1. Merci beaucoup. Il me fait plaisir de vous présenter cet article au nom de mes collègues. Cet article, ce mémoire, porte sur un nouveau médicament, le tutidoxil, qui est un médicament qui est lié à une moiété lipidique et c'est transformé par des enzymes pour produire le métabolite sous sa forme 3-phosphate. Ce médicament est un composé qui a été testé et qui montre une bonne activité à dose élevée mais pas faible, comme on le voit sur la diapo. Et il y a un peu d'hépatotoxicité et de dermatotoxicité ont nui au développement de ce produit. Ce composé, la fosalvudine tidoxil, a montré une bonne activité à des doses bien tolérées chez les macaques, avec un dosage, une dose équivalente à 150 mg chez les humains, donc beaucoup plus élevé qu'utilisé au préalable avec les autres composés. Donc ceci a soulevé des avantages potentiels comme moindre toxicité due à une distribution dans la moelle osseuse et des données des études animales montrent la possibilité que ce médicament pourrait être utilisé une fois par jour. Donc l'objectif de l'étude était d'évaluer la sécurité, la tolérabilité et la pharmacocinétique de la fosalvudine tidoxil dans des patients infectés. C'était la première fois qu'on l'a utilisé chez des humains, une seule dose. On a inclus 24 patients naïfs aux antirétroviraux dans deux groupes consécutifs. On a commencé avec un premier groupe de 6 patients avec 5 mg, 10 mg, etc. jusqu'à ce qu'on arrive au groupe de 40 mg. La sécurité et la tolérabilité ont été évaluées sur une période de 16 jours de suivi et on a aussi fait 72 heures de pharmacocinétique. Vous voyez ici les caractéristiques de référence qui étaient comparables dans les 4 doses. On avait un index de masse corporelle de 24,1 et une charge virale dans le protocole devait être naïf et ne pas avoir besoin de traitement. Il fallait que ce soit entre 5000 et les CD4 étaient une médiane autour de 430 avec un minimum de 265. C'était le seuil pour être inclus et un maximum de 1158. Par rapport à la sécurité et la tolérabilité, dans cette étude de dose unique, on ne pouvait pas identifier d'événements néfastes de signification clinique et on n'a pas eu de rapport spontané ni suite à un examen physique. Et toute l'hématologie et la biochimie sont demeurées entre les valeurs normales. par rapport aux événements néfastes que nous avons pu identifier. Vous voyez ici sur le tableau un total de 8 événements néfastes chez 8 patients se sont produits après la consommation du médicament, avec 2 de grade 2 et 1 de grade 1, mais seulement 3 parmi eux pouvaient être reliés comme étant susceptibles d'être reliés à la consommation du médicament. Dans 3 cas, c'était une légère céphalée. Par rapport à la pharmacocinétique, comme vous pouvez le voir ici, la demi-vie à la fin de la consommation était entre 5 et 7 heures et le Cmax est atteint entre 6 et 7 heures après la consommation du médicament. Il faut remarquer ici qu'aucune différence significative n'a été observée lorsqu'on compare la dose de 5 à 10 mg, mais ensuite, il semble qu'il y ait une courbe de réponse à la dose. Si on continue avec l'analyse PK, je veux insister sur le fait que le C maximum augmente d'une médiane de environ 6 mg par litre jusqu'à 500 mg dans le groupe de 500 mg. Et l'AUC augmente environ d'un facteur de 10, d'environ 400 dans le groupe 500 mg à presque 4000 microgrammes par litre dans le groupe de 40 mg par mg. Et cette augmentation semble être proportionnelle à la dose sur la gamme essayer. Donc, en conclusion, une seule dose de 5 à 40 mg de fosalvudine tidoxyl semble être sécuritaire et bien tolérée. Ça a montré une relation linéaire avec l'AUC et le Cmax. La demi-vie terminale d'environ 4 à 7 heures peut permettre un dosage une fois par jour et les paramètres PK observés nous disent que l'accumulation ne devrait pas être anticipée. Et maintenant, une étude de dose de 14 jours qui va explorer les mêmes doses vient d'être débutée. Merci beaucoup. Et en passant, je voudrais remercier tout. J'aimerais montrer les remerciements des gens qui ont contribué à cette étude, surtout les gens qui ont travaillé avec moi à la Fondation Huésped et les résidents de l'hôpital Fernandez. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Nous pouvons prendre des questions. Il nous reste quelques minutes. Micro numéro 2. Il semble y avoir un concours. Oui, Joe et moi, on se bat pour le... Donc, Charlie Vanderhorst de l'Université de la Caroline du Nord. Je faisais partie de cette étude avec Charlie Flexter et le médicament a été cessé à notre institution suite au décès d'un jeune médecin qui avait un CD4 élevé. Et nous regardions ça de près avec un essai de dépistage. Donc, il n'y a pas eu d'accumulation de doses chez cette personne. Il est décédé de nécrose hépatique qu'on a vu à l'autopsie. On a vu une toxicité du médicament. Donc, il y a, bien sûr, avec l'accumulation, le problème de la toxicité immunologique. Mais je ne sais pas si on va éviter une hépatotoxicité idiosyncratique, comme je vous le disais, faites bien attention, c'est mon commentaire. Oui, on va faire attention, c'est évident. Joe. Oui, une question rapide. Avec la dose unique, avez-vous pu obtenir des données sur la charge virale? Non, on n'a pas fait cette étude-là parce que c'était seulement une étude de dose unique. Ça ne faisait pas partie du protocole. L'objectif était seulement la sécurité, la tolérabilité et le PK. D'accord, merci beaucoup. Alors, notre prochain mémoire est Saint-Tilt ACTG 5211, étude de phase 2 de la sécurité et l'efficacité du Vicriviroc chez les patients ayant déjà été traités et souffrant de VIH. Merci Andrew, il me fait plaisir de vous présenter les résultats de l'étude 5211, qui est une étude de phase 2 de Vicriviroc, l'inhibiteur de CCR5 chez des sujets déjà ont été traités au nom du groupe. Nos objectifs, l'objectif primaire de ACGT 5211, c'est d'évaluer l'activité virologique de 3 doses de Vicriviroc à 14 jours. Notre objectif secondaire aux semaines 24 et 48 était d'évaluer la sécurité et la tolérabilité du Vicriviroc et de tolérer l'activité virologique et immunologique biologique avec la thérapie optimisée de TRA et d'évaluer le changement de co-récepteur. Nous avions des patients qui avaient au moins 5000 copies de ARN tout en prenant du ritonavir. Ils avaient seulement le phénotype sans R5. Ils ont été stratifiés par utilisation d'amphivirtide et avec un niveau de référence d'au moins 50 cellules par microlitre. Le protocole expérimental, les patients sont arrivés après avoir échoué à la thérapie antirétrovirale. Ils ont été dépistés avec des tests de résistance génotypique et phénotypique et ils ont déterminé le tropisme aussi. Au début de l'étude, ils ont continué le régime et ils ont été randomisés à un de quatre traitements, placebo ou vicriviroc à 5, 10 ou 15 mg une fois par jour. L'étude, le traitement a été rajouté à leur régime antirétroviral. Ils ont suivi pendant 2 semaines et la mesure de l'efficacité a été déterminée. À cette visite, les patients et leurs médecins ont pu optimiser le régime antirétroviral basé sur l'historique de traitement et les tests de résistance virale et le suivi a continué jusqu'aux semaines 24 et 48. Tous les régimes antirétroviraux incluaient 100 à 800 mg de ritonavir. On a mis une puissance d'étude pour déterminer une différence de 0,7 log dans la charge virale entre les traitements vicriviroc et placebo. Et il y a eu des options de crossover dans le protocole pour les patients qui ont eu un échec virologique. On avait 118 sujets avec un âge médian de 46, 92% hommes, 8% femmes. Un tiers étaient des gens noirs et d'autres les blancs. La charge virale moyenne était de 36 000 copies dans et le CD4 146 cellules par microlitre. Un tiers et 100% avaient le virus R5 tropique lors du dépistage. Un développement lors de l'étude était que notre comité de surveillance, le 6 octobre 2005, a recommandé de cesser la dose la plus faible, le vicrovirac 5 mg, et d'offrir aux patients une augmentation du vicroviroc à 15 mg à cause des tendances d'une augmentation du changement de co-récepteur et une réponse virologique suboptimale et la décision de changer la dose la plus faible sur une étude naïve commanditée par Schering. Cette diapo montre le point primaire de fin de l'étude. C'est le changement primaire dans la charge virale à 14 jours dans l'analyse. Comme vous voyez, il n'y a aucun changement dans le niveau de charge virale chez le placebo. Les trois traitements vicroviroc sont associés avec une diminution de charge virale d'environ 1 log sous le niveau de référence rendu à la fin de 14 jours. Ceci montre les changements moyens étendus des changements d'ARN viral sur 24 semaines. Je vous remarque qu'à 2 semaines, les patients avaient le droit d'optimiser leur régime de fond basé sur l'historique de traitement et les tests de résistance. Ce que vous voyez, c'est que dans le groupe placebo, environ une réduction de 0,4 log, cette tendance remonte au niveau de référence après 24 semaines. En contraste, les trois groupes vicriviroc sont associés avec une diminution de charge virale et comme vous le voyez, c'est une diminution durable jusqu'à 24 semaines. Après 24 semaines, le groupe vicriviroc 5 mg a une diminution de 1,5 log, celui de 15 mg 1,7 et le groupe de 10 mg 1,9 log de réduction par rapport au niveau de référence. Ce tableau illustre d'autres réponses virologiques après 24 semaines. Si vous regardez la proportion dans chaque groupe qui ont eu une diminution de charge virale d'au moins 1 log en dessous du niveau de référence, vous voyez que 18% du groupe placebo comparé à 61% du vicrovirac 5 mg et environ 70% dans les 10 et 15 mg ont atteint ce résultat. Si on regarde la proportion moins de 400 copies par millilitre à la 24e semaine, 11% du groupe placebo, 43% à 5 mg et environ 50% à 10 et 47% du groupe 15 mg. Et finalement, moins de 50 copies par millilitre, 7% du groupe placebo, 26% du 5 mg, 40% du 10 mg et 27% du groupe de 15 mg. Les changements dans le CD4 sont illustrés ici sur 24 semaines. Le groupe placebo tombe en fait sous le niveau de référence à la semaine 24. Vous voyez une augmentation constante dans les trois groupes Vicriviroc avec une réponse intermédiaire pour le groupe de 5 mg d'environ 80 cellules au-dessus du niveau de référence et dans les groupes de 10 et 15 mg, 140 cellules de plus que le niveau de référence. Le tropisme. Comme je l'ai mentionné au dépistage, nous avons conçu le protocole que tous les patients avaient une documentation du virus R5 seulement. Mais ça a été redéterminé au début de l'étude avant l'administration du médicament. 86% des patients avaient seulement le virus R5, mais 12 ou 10% ont changé leur tropisme pour un double ou mix. C'est-à-dire qu'il y avait la détection du virus X4 et 4% avaient des données manquantes. Si vous suivez les 106 patients avec R5 ou des données manquantes sur le traitement, 13 ont eu des changements dans le tropisme pendant l'étude. 1 dans le groupe placebo, 7 dans le groupe de 5 mg, 3 dans le groupe de 10 mg et 2 dans le groupe de 15 mg. On a fait une sous-analyse post-hoc en regardant la réponse virologique des patients qui ont été randomisés à 10 ou 15 mg de Vicriviroc et on a regardé leur réponse virologique à la semaine 24. Des 71 patients qui avaient le virus tropique R5 au début, on voit une réduction de 1,8 log de la charge virale à la semaine 24. Comparer ça aux 10 patients qui avaient le virus double mixte au début qui avaient une réduction de 0,8 log à la fin de 24. Semaines et ça, c'est statistiquement significatif et ça favorise le groupe 5 mg seulement. Il n'y a pas de différence significative pour les événements néfastes de grade 3 ou 4. Pas de crise d'épilepsie qu'on avait vu chez les animaux n'ont été mentionnés dans ce essai clinique. 5 sujets ont été randomisés au Vicriviroc, ont développé des tumeurs pendant l'étude. 1 sur 15 mg avec un historique de Hodgkin a développé un lymphome non hodgkinien et un avec du Hodgkin's a développé du Hodgkin's récurrent. Un patient avec 15 mg sans historique de tumeur a développé un adénocarcinome gastrique et deux patients sur la dose de 5 mg qui n'avaient pas d'historique de cancer ont développé la maladie de Hodgkin's ou le lymphome non hodgkinien. Et deux patients sur le placebo ont développé des cancers, un carcinome des cellules squamous cutanées et un autre qui est passé à 10 mg après l'échec viral. On a cessé le médicament après un arrêt, une non-réponse et a développé un cancer de l'anus. Et en résumé, dans les patients qui ont déjà été traités, le Vicriviroc à 5, 10, 15 mg avec du ritonavir démontre une répression virologique efficace à 14 jours. Et après l'optimisation du régime de fond, le Vicriviroc à 10 ou 15 mg avec du ritonavir a démontré une activité rétrovirale soutenue sur au moins 24 semaines sans différence significative entre ces deux traitements. Dans une sous-analyse des patients avec le virus double ou mixte avait une diminution de la réponse virologique. Le Vicriviroc était généralement bien toléré et compte tenu de du petit groupe, la relation avec les cancers est incertaine. Je veux remercier l'équipe du protocole, en particulier Daniel Kuritz et Charles Flexner, Paul Skoltzik et les autres chercheurs et membres de l'équipe, de même que notre commanditaire pharmaceutique Wayne Graves et l'Institut Sharing Cloud et Monogram Biosciences et la division du SIDA et les 25 sites qui ont enrôlé des patients et dernier mais non le moindre, nos participants. Merci. Merci. Nous avons du temps pour une question rapide. D'accord. Sinon, on vient de me donner ceci de Sharon Wamsley. On va ajouter 3 autres rapports. Non, c'est une farce. Ah oui, il y a une question. Allez-y. Ne sortez pas. C'était une farce. C'est très rapide. C'est un merveilleux trip. Combien de patients avez-vous dépistés pour en trouver des R5? Pour le tropisme, nous avons trouvé que 50% était admissible à l'étude. Les autres 50%, la majorité avait des virus doubles ou mixtes et étaient inadmissibles à l'étude. Merci, Trip. Dernier article, c'est fait. Ça va être présenté par Robin Hardwick de Tanox Pharmaceuticals et le titre, c'est TNX355 en combinaison avec un régime optimisé a donné un résultat significatif dans l'augmentation des CD4 lorsque comparé avec l'OBR, ce dans une étude de phase 2 à 48 semaines. Bonjour, j'entends dire que les Canadiens gardent le meilleur pour la fin. Et alors, je veux commencer en remerciant les Canadiens pour leur hospitalité. Ça a été fantastique. Et je veux remercier le Dr Stanley Lewis et ses collaborateurs de m'avoir permis de présenter ces données cet après-midi. Et le Dr Stanley Lewis aimerait aussi s'excuser de ne pouvoir être ici pour vous présenter ce mémoire lui-même. D'abord, je vais vous donner un survol du TNX355. C'est un anticorps monoclonal humanisé qui est un inhibiteur d'entrée virale. Il inhibe l'entrée du VIH dans les lymphocytes eux-mêmes. Il se lie à l'épitope dans le deuxième domaine de la cellule CD4. C'est administré par des infusions intraveineuses 2 fois par mois. C'est efficace in vitro contre un large spectre d'isolats primaires et c'est non immunosuppressif. C'est indiqué à l'heure actuelle pour le traitement de patients expérimentés et l'État à l'heure actuelle, ça a reçu une autorisation rapide de la FDA. La structure de la protéine capsidique du VIH est complexe et vous voyez qu'il y a plusieurs sites de prévention pharmacologique. Ce qui est important pour le TNX355, c'est de remarquer que ça se lie au deuxième domaine. Donc, ça empêche le changement conformationnel qui permet d'avoir accès au récepteur chémokine. Ce graphique illustre le mécanisme 355, le mécanisme d'action dans un gros plan, et remarquez que ça change la conformation pour que le VIH ne puisse entrer, et ce qui protège l'état immunologique, conserve l'état immunologique. Alors, regardons maintenant la conception des essais cliniques pour cette étude de phase 2, 48 semaines avec 24, il y a 82 patients qui ont été recrutés. C'est un double insu randomisé avec placebo et la charge virale de plus de ou égale à 10 000 copies et des CD4 de 50 ou mieux pour être admissible. Des GT phénotypiques ont été faits avant la sélection au niveau de la thérapie de fond optimisée. Ils ont été envoyés à des groupes ouverts, de même qu'une thérapie de fond à l'échec. Donc, le résultat primaire attendu était de trouver une réduction moyenne du niveau de référence à 24 semaines. Et le deuxième résultat attendu était le pourcentage des sujets qui ont obtenu une diminution virale de moyen une demi-log de diminution. Le pourcentage de sujets qui ont eu une réduction de charge virale à au moins un log et le changement de pourcentage de nombre de numérations CD4 en bas du niveau de référence et d'échec virologique a été défini comme étant plus d'une augmentation de diminution d'un demi-log du niveau de référence. Au niveau démographique, vous voyez que ça correspond bien dans les deux traitements, le traitement de 10, 15 mg et placebo. Pour ce qui est de l'âge, de la race, homme ou femme, ARN de base, charge virale et CD4. Donc, les résultats attendus à 24 semaines indiquent une réduction moyenne de charge virale du niveau de référence qui était statistiquement significatif. Et ensuite, ce qui est plus important, à la semaine 48, nous avons pu maintenir cette réduction de charge virale. Et gardez à l'esprit que on ne compare pas les doses de 10 et 15 mg, on compare avec le placebo. Donc, le moment, la durée jusqu'à la perte de réponse virologique se compare est donné en nombre de jours. La semaine 48, résultat immunologique, vous voyez ici que la dose de 15 mg a eu une augmentation de 51 cellules et la dose de 10 mg a provoqué une augmentation de 48 cellules. Maintenant, lorsqu'on regarde les événements néfastes suite au traitement de grade 2 ou pire à 48 semaines, remarquez que je vais vous montrer toute la liste. Donc, chaque événement lié au traitement va être mentionné ici. Et ça peut être le même individu parce que c'est suite au traitement. Et aussi, gardez à l'esprit, lorsque vous consultez la liste, que tous ces sujets avaient une thérapie de fond optimisée aussi. Les anomalies de laboratoire de grade 3 ou 4 étaient relativement rares à 48 semaines et il n'y a pas eu de différence parmi les traitements et toutes les anomalies sont affichées comme vous pouvez le voir ici. Donc, en résumé, la réduction de charge virale statistiquement significative a été obtenue. Il y a eu une augmentation significative de cellules CD4. Peu d'effets secondaires ont été observés comparés au placebo. Il n'y a pas eu d'effets néfastes graves reliés aux médicaments. Et ça, c'était d'après... Il n'y a pas eu de réaction au site d'infusion. C'est actif contre plusieurs souches, actif contre le CCR5 et le CXCR4, les virus tropiques, et il n'y a pas d'interaction de médicament à médicament.
Je veux rendre hommage aux patients qui été inscrits dans cet essai clinique. Je veux aussi rendre hommage aux expérimentateurs. Un bon nombre d'entre eux sont ici dans l'auditoire et tous les coordinateurs de recherche et toutes les autres personnes impliquées, tous ceux qui tentent de mettre en place de nouvelles options de traitement pour les patients. Merci. Nous avons un peu de temps pour quelques questions. S'il n'y a pas de questions, le marathon est terminé. Je vais remercier de la part de mon co-président, je remercie tous les présentateurs, tous les conférenciers et tous les participants pour votre attention. Merci.